Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Dans ce nouvel épisode, nous avons eu envie d'explorer une forme singulière de narration, la chanson, avec deux auteurs, compositeurs, interprètes de talent.
On les connaît bien sûr pour leurs tubes, leurs albums, les classiques ou les plus concepts, mais aussi pour des bandes originales de films, de séries télé ou de pièces de théâtre. Ils ont également écrit de nombreuses chansons pour de célèbres artistes de la scène musicale française.
Notre premier invité se lance dans la musique à la fin des années 90 et compose des bandes originales et des chansons pour les films du réalisateur Christophe Honoré. En 2005, il sort son premier album, Garçon d'honneur, chez Naïve Records, qui va inspirer le film musical Les chansons d'amour, pour lequel il remporte le César de la meilleure musique. Il sort ensuite plusieurs albums, écrit des chansons pour Camélia Jordana, Françoise Fabian, La Grande Sophie, Julien Clerc et bien d'autres artistes renommés.
En 2015, il participe au roman documentaire Les gens dans l'enveloppe, écrit par Isabelle Monin, un grand succès critique et public qui devient double disque d'or. Il compose pour le cinéma et la télévision, participe à des hommages à ses idoles de Souchon à Scheller et après le remarquable Pas plus le jour que la nuit sorti en 2019, réadapte en 2021 l'album Love on the Beat de Serge Gainsbourg. La même année, Valentine Duteil et Karine Morales réalisent son portrait dans le documentaire Je n'aime que toi, diffusé à la télévision. Nous avons le plaisir d'accueillir Alex Baupin.
Notre deuxième invité grandit dans un milieu artistique et apprend le piano dès l'âge de 5 ans. Après des études au conservatoire de musique et de danse de Bourges, il enregistre ses premières chansons dans son home studio et sort son premier album Gargiles chez Barclay en 2004. Son deuxième album, Rio Baril, est un album concept qui raconte la vie d'un personnage, de son adolescence à sa vie adulte, dans une ville imaginaire du Berry. Sur cet album, que les Inrocks retiennent comme le troisième meilleur album français des années 2000, on retrouve à ses côtés Philippe Catherine et Dominica.
En 2007, il crée sa propre société de production et d'édition et coécrit le livre-disque Frère Animal avec l'écrivain Arnaud Catherine. En parallèle de ses propres albums, il compose des chansons pour de nombreux artistes comme Sylvie Vartan, Miossec, Bernard Lavillier, Benabar, Calogero et bien d'autres. Il signe également de nombreuses musiques de films, de pièces de théâtre, de documentaires et de séries télé. En 2020, il publie Le Monde du Vivant aux éditions Stock, un roman écologique et social sur le retour à la terre et la réalité du monde rural. Nous sommes heureux de recevoir Florent Marché.
Voici deux auteurs, compositeurs, interprètes prolifiques qui explorent les différentes manières de raconter, en chanson, le monde, la société et la complexité des sentiments humains.
Alors, comment écrit-on une bonne chanson ?
3 minutes suffisent-elles à raconter une bonne histoire ?
Faut-il commencer par la musique ou par le texte ?
Quelle est la différence entre un éditeur de musique et un producteur ?
Comment écrit-on pour un autre chanteur ou pour une comédienne ?
C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondrons dans cet épisode.
Je suis Yannick Lejeune.
Et je suis Mike Cesno.
Générique ! Bonjour.
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 Pour commencer notre podcast, on a toujours une question récurrente, c'est qu'est-ce qui fait une bonne histoire ?
Ah, vas-y, commence Florent.
Je crois que l'histoire, c'est la chose la moins importante dans l'écriture. Ce qui fait une bonne histoire, c'est simplement la motivation intime et la nécessité de devoir l'écrire.
C'est effectivement la façon dont on la raconte, l'histoire, si elle est bonne ou pas. C'est Hitchcock qui racontait l'histoire d'un scénariste qui se réveillait tout le temps la nuit et qui avait des idées géniales. Et qu'il le lendemain les avait oubliés, et donc sa femme lui dit « tu mets un petit carnet à côté du lit ». Donc il met un petit carnet à côté du lit, il se réveille la nuit, il a une idée géniale, il la note, puis le lendemain, voilà, il se réveille, puis il dit « putain, j'avais encore une bonne idée ». Il dit « mais oui, j'ai mon petit carnet ». Et sur son carnet, il voit qu'il est marqué « Boy Meets Girl ». Mais « Boy Meets Girl », ça peut sembler une histoire complètement stupide parce que racontée 100 000 fois, mais c'est pas ça, c'est pas l'idée qui est importante en fait, effectivement, c'est ça qu'elle raconte cette histoire. C'est comment on raconte une histoire d'amour qui peut sembler a priori un peu banale, quoi.
Et est-ce qu'il y a des idées ou des concepts d'histoire qui sont spécifiquement des bonnes idées pour une chanson ?
L'amour et Paris. Enfin,
moi, c'est Gershwin.
C'est Gershwin qui disait ça, mais bon, non, mais en plus c'est pas vrai parce que Florent comme moi, on a essayé de pas raconter que des histoires d'amour dans ce qu'on faisait. Mais moi, je suis parti de ça. En tout cas, je suis parti de l'idée que les chansons que je préfère, c'est les chansons sentimentales. Voilà. Donc oui, les chansons d'amour, c'est forcément un truc qui, si on se démerde pas trop mal, ça finit par... Enfin, c'est un bon format, la chanson, pour raconter des histoires d'amour, je crois.
Moi, c'est le lieu, avant tout. C'est le lieu. C'est le lieu qui est le milieu social qui va me conduire vers l'histoire. Donc, je pars de ça.
C'est Courchevel, quoi.
Oui, ça peut être ça. Encore une fois, la nécessité de ressusciter. Ressusciter des endroits, des lieux, des moments qu'on a traversés, qu'on a vécu.
Des époques aussi ou...
Ouais, c'est la seule façon de revivre. Dans la vie, on a jamais plusieurs fois l'occasion de vivre un moment, sauf quand on écrit. C'est un peu la magie de ce truc-là, en fait. C'est pour ça que ça devient assez addictif. Même si après, on maquille, on transforme pour aller vers de la fiction, en général, ça part d'un truc qui est très...
Est-ce que c'est une façon de pas oublier aussi?
Je sais pas si c'est une façon de pas oublier, c'est une façon de tuer un souvenir, oui.
Revenons très en arrière. Qu'est-ce qui vous amène tous les deux à la chanson? Est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est l'écriture?
Moi, c'est les chanteurs. Enfin, je veux dire, c'est le fait d'en avoir écouté très tôt, d'avoir eu des parents, ma mère particulièrement, qui jouait du piano, de la guitare, qui nous chantait des chansons. J'avais des parents assez mélomanes. Et moi, je crois que la première chose, quand j'étais enfant, qui m'a ému plus que les livres que j'aimais beaucoup, le cinéma, c'était les chansons. Ouais, c'était la chose qui vraiment me plaisait le plus. C'était un fantasme assez tôt d'enfant de vouloir être à la place des chanteurs ou des chanteuses que j'écoutais, que je voyais à la télévision, que j'entendais à la radio, que j'entendais chez moi. C'est vraiment très simplement, moi, j'écris des chansons parce que j'ai aimé des chansons, j'ai aimé des chanteurs.
C'était qui les premiers
chanteurs? Les premiers, c'est les chanteurs des parents. C'est moi, ils étaient. Moi, c'était vraiment les familles de gauche, de province, classe moyenne. Ma mère était instite, mon père était cheminot. Vous voyez, c'était entre la CGT et le PS, quoi. et donc, eux, ils étaient plutôt d'une chanson un peu tradition française. C'était Barbara, Trenet, Brassens, Brel. Enfin, vraiment, pas très rock. Mes parents, ils étaient passés un peu à côté, tout le truc un peu pop, les Beatles même, etc. Mais voilà, c'est ça qu'on écoutait à la maison. C'est ça qui nous chantait eux, que nous chantait ma mère, en tout cas, qu'on apprenait. Et, alors qu'après, ça m'a un peu passé. Mon premier vrai choc de chanteur que je vois à la télévision, c'est sans doute Brel quand on le voit chanter Amsterdam et tout ça. Enfin, il y avait un truc qui m'attirait beaucoup là-dedans. Après, ça m'a passé parce que je trouvais ça très démonstratif finalement plus tard. Mais enfant, ouais, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué, je crois.
Mais t'es né en quelle année?
Non, mais
Brel à la
déjà mort. Mais tu sais, mais oui, Brel, il est mort en 79, 78, donc j'avais 5 ans quand il est mort. Et ça passait encore à la télé, ça, quand même.
Non, parce que on a eu quasiment les mêmes parents. Parce qu'effectivement, moi, mes parents également étaient passés à côté de la vague rock. Et je découvre d'ailleurs les Beatles. C'est une révélation à l'âge de 14 ans.
Oui, moi c'est pareil.
C'est dingue qu'on m'ait caché ça.
Il y a tout un pan de la pop anglaise ou du rock même que je découvre assez tardivement en fait.
C'est génial, c'est fantastique. C'est comme quand tu conseilles un livre à quelqu'un qui ne l'a pas lu. Moi je suis toujours heureux d'évoquer par exemple Nick Drake et que la personne me dise « je vois pas qui c'est, j'ai entendu parler ». Je dis « ah, c'est la chance ».
C'est de la chance de découvrir tout ça. Et alors, qu'est-ce qui vous amène à commencer à écrire derrière? Comment ça se passe pendant l'adolescence? C'est un journal intime qui devient des chansons? C'est une envie de monter sur scène?
Comme plein de gamins, moi j'écrivais des poésies nulles quand j'étais petit. Petit à petit, comme je prenais des cours de piano, qu'on faisait de la chorale, je me suis rendu compte qu'en se mettant derrière un piano et en jouant 3-4 accords, il était possible d'écrire quelque chose, enfin de se débrouiller pour écrire des chansons. Et ouais, assez vite, moi j'ai écrit des textes courts. Moi j'étais plutôt dans le format d'écrire des poésies ou des petites chansonnettes qui étaient nulles, parce que j'ai dû écrire ma première chanson, j'avais 8 ans ou 9 ans ou un truc comme ça, et c'était pas bien quoi, mais en tout cas ce truc là ça m'amusait. Et puis c'est comme les gamins qui font des spectacles à Noël quoi, que quand mes parents voyaient que j'écrivais des poèmes ou des chansons, ils trouvaient que c'était formidable et que ça épatait les gens. Voilà, moi c'était épater mes amis ou mes parents qui faisaient que je me rendais compte qu'il y avait une rémunération en plus symbolique assez forte à ce truc là quoi. Voilà, et donc comme par ailleurs j'étais pas particulièrement brillant en sport ou dans d'autres domaines où les enfants d'habitude ça me permettait d'avoir ce petit truc, cette petite singularité qui me mettait en valeur quoi.
Et toi Florent?
Moi j'ai commencé par le piano classique et j'avais l'impression que ça me ramènerait à une époque que j'aimais bien, qui était le 19e siècle, et j'étais convaincu que je pourrais être compositeur du 19e siècle. J'ai mis du temps à m'avouer que ça serait plus possible. Puis de l'autre côté, j'aimais écrire des histoires mais sous forme un peu de scénario, peut-être pas des... Je m'arrêtais très très vite, hein, parce que on n'a pas beaucoup d'endurance quand on a 12 ans. On se lance à chaque fois dans des débuts de romans.
Moi, j'en ai toujours pas. C'est pas que j'écris des chansons, hein, lui écrit des romans. Alors moi, je suis incapable d'être sur le long terme comme lui. Hein.
Mais en fait, rapidement, je me suis aperçu que j'aimais les musiques de films, que j'aimais les livres et que j'aimais les chanteurs, mais que ça permettait la chanson de réunir mes deux passions, la musique et les mots. Et effectivement, c'est assez valorisant parce que on se dit bah tiens, je suis capable de faire quelque chose dans la vie. Quoi.
Ensuite, Alex, toi, tu racontes la rencontre avec Aude, donc ta petite amie qui a été victime d'une crise cardiaque et une mort subite. Et tu dis que ça t'a beaucoup poussé à finalement passer en studio.
Mais même à vraiment faire ce métier, parce qu'avant j'écrivais des trucs, des chansons et tout, mais je le faisais de façon assez velléitaire en fait. Moi j'ai écrit des chansons donc assez tôt, enfant et tout, et très vite je me suis rendu compte que ça me plaisait, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'avouer que c'est ce que je voulais faire. Enfin je trouvais qu'il y avait un truc un peu honteux là-dedans, pas honteux mais je me disais que j'en étais pas capable en gros. Et puis j'écrivais surtout des chansons que t'es pas très bonnes, et moi-même je savais qu'elles étaient pas très bonnes, je les écrivais parce que ça me faisait plaisir, mais je trouvais ça pas super. Et quand Aude est décédée, effectivement, j'ai commencé à écrire des chansons sur cet événement. l'événement assez tôt, genre 2 semaines peut-être après son décès, et je me suis dit deux choses. La première chose, c'est que tout d'un coup, je trouvais que les chansons, c'est terrible de dire ça, mais avaient tout d'un coup une densité, un intérêt. En fait, je me disais, tiens, elles sont pas mal ces chansons. Je me disais pas c'est génial, mais je me disais c'est mieux que ce que j'essayais de faire avant quand il m'arrivait rien. Et puis le deuxième truc, c'est de me rendre compte que une de mes premières réactions après cet événement-là a été de me mettre derrière un piano et d'écrire des chansons. Je me suis dit quand même, ça veut peut-être dire que quelque part, profondément, t'es un peu un chanteur de façon intrinsèque, quoi. Si la première nécessité, le premier truc qui te vient, c'est de faire ça quand il t'arrive un événement pareil, c'est que bah peut-être qu'il faut faire ça. Peut-être que c'est ça qui va... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire.
Ouais, ouais, ça a confirmé la nécessité, mais...
Ça a même donné une nécessité à la chose, je crois. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça que je suis.
Oui, et pourtant, on sait très bien qu'il suffit pas d'un drame intime pour faire un bon livre ou une bonne chanson.
Bien sûr, évidemment.
Des choses sont vraiment...
Oui, parce que souvent on dit un artiste doit être triste pour être inspiré, tout ça. En fait, c'est plus, il faut qu'il ait ce besoin d'écrire, en fait, quel que soit
Oui, la nécessité, il a raison de beaucoup de parler de nécessité. Florent, moi, c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais plein de fois, quand je me dis, il faut que je fasse un album, il faut quand même que j'en éprouve la nécessité, sinon je pars sur d'autres projets parce que je trouve qu'il y a tellement de choses dispensables qui sortent que c'est pas la peine d'en rajouter, quoi.
Et toi, Florent, la nécessité du premier album, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, allez, maintenant j'y vais?
Bah, c'est au moment où j'ai décidé d'arrêter, donc c'est plutôt pas mal. Ça m'est arrivé au moment où je voulais plus. Pendant des années, je voulais chanter tout en détestant ma voix, tout en détestant chanter. J'étais à chaque fois en souffrance quand je chantais, j'étais essoufflé, j'avais l'impression que ça me demandait une énergie complètement folle. Vraiment, j'aurais préféré faire un marathon à la place. Et au bout d'un moment, j'ai enregistré des chansons. J'ai écrit des chansons à partir de l'âge de 15 ans et je suis passé par tous les styles. Et je trouvais ça à chaque fois très très mauvais. Enfin, je trouvais ça génial pendant 15 jours et puis tu réécoutes, tu trouves ça mauvais. Et puis 3 mois après, tu seras très 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 mauvais, plus on avance. J'ai dit, mais comment j'ai pu écrire cette merde? Et c'est vrai que j'ai le sentiment que ça s'est un peu stabilisé à l'époque du premier album, que mes chansons commençaient à se tenir à peu près. C'était pas encore ça, mais ça... Et je les ai enregistrées en faisant un peu le tour des maisons de disques, j'ai eu que des refus. Ça m'a confirmé le fait que j'étais pas forcément fait pour chanter mes chansons. Et j'ai voulu je les ai proposées à une éditrice pour qu'on les passe à des chanteurs, à des chanteuses. Et elle m'a dit, ah, c'est peut-être dommage, on d'abord envoyé à des gens de maisons de disques. Et là, on a eu des propositions.
Alors, j'ai lu qu'elle avait envoyé ça à Jean-Daniel Beauvais oui. des Inrocks et à Bernard Lenoir de France Inter.
Oui, en fait, je raconte mal l'histoire, mais tu vois, je raconte mal les histoires. Oui, elle a envoyé à Bernard Lenoir et Beauvais, c'est parce que eux en ont parlé.
C'est parce que eux sont influents dans le monde de la musique.
Ouais, ça comptait. C'est-à-dire que les mêmes maisons de disques qui m'avaient refusé ont tout appelé après.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui nous écoutent la différence entre un éditeur de musique et un producteur? Parce que le métier d'éditeur dans la chanson, il est un peu moins connu du grand public.
Alors, pour le dire un peu prosaïquement, théoriquement, un éditeur prend vos chansons dans son catalogue et... globalement, bon, après il y a des contrats différents, mais globalement récolte 50% de vos droits d'auteur et vous avez les autres 50%. Alors on pourrait se dire, expliquer comme ça, que ça n'a aucun intérêt, mais un éditeur est censé vous faire gagner plus d'argent que si vous étiez tout seul avec vos 100%, donc par exemple se charger, dans le cas d'un chanteur qui veut signer, de vous faire signer dans un label, ou de placer, c'est vilain comme terme, mais vos chansons, de vous faire rencontrer d'autres artistes pour que vous travailliez, que vous fassiez votre métier de d'auteur compositeur, quoi. C'est ça, en
mais l'éditeur a existé avant le producteur, c'est-à-dire que à la base il y avait la SACEM s'est montée, je crois, fin du 19e, voilà. Et c'est un Ravel, je sais plus, qui était le premier.
Oui, ça doit être ça.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu protéger la musique pour qu'il y ait des droits d'auteur, pour que ça puisse générer un peu de fonds. Et puis que par la suite, dans les années vraiment 50-60, il y a l'industrie du disque qui a commencé à prendre son nez. Et là, il fallait enregistrer de la musique. Donc ça coûtait quand même de l'argent et c'est le producteur qui finançait ça. Mais après, il y a deux choses. Il y a les droits de diffusion. Donc quand on écoute des morceaux à la radio, à la télé ou même en concert, donc ça génère des droits qui sont des droits de la SACEM et qui sont effectivement répercuté comme ça, 50-50 en général. Et de l'autre côté, il y a le pourcentage qu'on a sur la vente des disques. Ce qui aujourd'hui nous paraît un peu... Bon, c'est plus trop d'actualité, hein, mais à l'époque, il y avait des disques qui se vendaient. Voilà. Et en général, l'éditeur peut faire aussi un peu la banque. C'est plus compliqué pour un auteur-compositeur d'avoir un crédit à la banque. Donc,
des avances, voilà, des primes aussi.
Des primes, enfin, des...
Après, pour être un peu encore plus prosaïque, il a raison, Florent, de dire qu'aujourd'hui, bah, on gagne plus d'argent avec des droits d'auteur qu'avec des ventes de disques. Surtout moi, d'ailleurs. Mais moi, ça a été un moyen aussi d'être en édition dans des maisons de disques. C'était un peu une stratégie de ma part de dire, si on vend pas suffisamment de disques sur mon projet à moi, comme je me mets en édition chez vous, ce que génèrent les droits d'auteur me permet de dire que je suis quand même bénéficiaire chez vous, en gros, et que je peux continuer à faire mon projet de chanteur. Il y avait cette idée-là. Moi, j'utilisais les éditeurs avec qui je me mettais en édition, en co-édition, de cette façon-là.
Toi, Florent, t'as créé ta propre maison d'édition. C'était pour avoir 50% en plus ou pour être plus libre?
Non, c'est vraiment pour être libre. J'ai senti rapidement qu'il fallait que j'ai mes outils de production pour si jamais ça se passait mal, pouvoir continuer à enregistrer, à produire. Et j'ai bien fait, parce que j'ai monté mon studio d'enregistrement en même temps, et ça m'a permis de faire aussi des projets où il n'y avait pas d'argent, comme une première musique de film où il n'y avait quasiment pas d'argent. On ne pouvait pas payer un studio, j'avais le studio. Voilà, avoir l'outil de production, je crois que c'était vraiment ça. Et puis après, l'édition, les éditeurs avaient moins de... jouaient un petit peu moins le rôle de la banque, et... je me suis dit que c'était temps de récupérer une partie des droits éditoriaux.
Je voudrais qu'on revienne au rapport à la voix. Vous avez tous les deux participé à un hommage à William Scheller. Et William Scheller, il raconte souvent sur scène, il tourne plus, mais à l'époque, il racontait qu'il avait longtemps fréquenté Barbara et que Barbara lui avait dit, mais nous, on n'est pas des chanteurs, on est des diseurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche?
Oui, moi, je me définis pas du tout comme chanteur. Je me définis pas comme diseur, mais comme raconteur. C'est l'excuse, parce que c'est le format, mais on aime avant tout composer des mélodies et puis des textes. Ça doit être agréable quand c'est chanté aussi par les autres, hein, mais c'est le fait, oui, d'être une sorte de raconteur, de porter la voix de ses chansons. C'est...
Ouais, parce que lui, il disait sur Un homme heureux, il dit c'est pas une chanson qu'il faut chanter. Si on la chante avec une belle voix, elle n'a aucun intérêt. Il faut la raconter.
Oui, toi, c'est ce truc d'incarnation. Mais moi, je comprends ce que disait Florent tout à l'heure quand il dit, moi aussi, ma voix... comme je suis pas un chanteur technique du tout, enfin j'ai fait un peu de chorale quand j'étais jeune et tout, mais il a quand même fallu à un moment donné que je trouve un truc, déjà pour m'aimer un peu quand je chante. Ça a pris du temps. Les premiers albums, s'il m'arrive incidemment de réentendre des chansons, j'ai l'impression d'un type vraiment qui chante avec une platitude, un truc que ça n'a aucun intérêt. Et moi, je crois que c'est le fait d'avoir travaillé avec des acteurs et des actrices, les avoir fait chanter, qui chantaient mes chansons d'ailleurs, qui étaient sur le premier album, où je me suis dit, alors peut-être qu'ils sont un peu moins justes et un peu moins placés que moi. Mais par contre, ils ont un truc, c'est qu'il y a une incarnation. Enfin voilà. Et l'incarnation, ça veut pas dire être dans la dramatisation du truc. Et tout, ça veut dire vraiment porter quelque chose et articuler d'une certaine façon, tu vois ce que je veux dire, se présenter pour qu'en face, la personne qui t'écoute ait l'impression que c'est un peu important ce que tu essaies de lui délivrer, quoi. Et en ce sens, je vois ce que dit Florent quand il dit raconteur ou diseur ou tout ça, c'est d'essayer de chanter et d'être suffisamment convaincu par ce que je chante, même si techniquement c'est pas super impressionnant, pour qu'en face, vous savez, c'est choper quelqu'un par la veste puis lui dire, attends, je vais te raconter un truc, c'est important. Et ça m'a pris du temps à trouver ce truc-là, d'être un peu incarné, en fait, quand je chante. Mais là, des fois, quand je m'entends, je me dis pas que je suis un formidable chanteur, mais je me dis, pour les chansons que je chante, ça va, quoi. Normalement, ça, je sais pas où t'en es, toi, mais je me dis, ça va.
Disons que je me serais absolument pas senti légitime d'être interprète pur. Je me serais dit de quel droit.
Mais oui, c'est ça aussi.
Là, je peux chanter parce que je suis un peu ambassadeur de mes chansons, donc j'ai un peu le droit.
C'est ça qui vous conduit sur scène?
Au départ, oui. Je crois.
C'est le fait de porter la chanson ou c'est d'aller voir le public?
Alors moi, ça a été compliqué la scène aussi parce que j'avais vraiment pas du tout d'aptitude pour ça au départ. J'étais très embarrassé. J'ai mis du temps à chanter à peu près juste, à pas être complètement stressé, à pas trembler quand je jouais du piano et que je chantais des chansons en même temps, parce que pour moi, ça a toujours été une cascade.
Dans le documentaire Je n'aime que toi, dans le pitch, ils disent il a fallu 17 ans à Alex Baupin pour pouvoir dire je suis chanteur.
Il y a des gens qui ont une vraie facilité pour ça, qui tout d'un coup se présentent sur une scène, sur un plateau, et qui sont à l'aise immédiatement, très jeunes et tout. Et moi, mais vraiment, ça m'a bien pris 10 ans, 3 tournées. Peut-être qu'à partir du 3e album, je me suis dit, alors là, ça va. J'ai un peu plus envie que peur d'y aller et je m'amuse un peu. Mais avant, c'était vraiment, je trouvais ça terrifiant. Enfin, j'étais très mauvais. Vraiment.
C'est pas notre spécialité première, dans le sens, si on prenait une métaphore.
On est pas des performeurs, quoi.
Non, on peut prendre une métaphore cycliste. Sur le Tour de France, il y a des gens qui sont grimpeurs, d'autres qui sont rouleurs, d'autres qui sont sprinteurs. Il faut bien le faire, ce Tour de France. Pas juste dire, moi, je fais que les étapes de montagne parce que c'est mon truc. Donc, en fait, quand tu fais de la chanson, il faut épouser tout. Mais il y a peut-être des domaines où tu te sens un peu moins légitime ou un peu moins fort. Mais c'est pas grave. Moi, c'est l'ensemble qui compte.
Oui, je crois. Puis, on trouve des moyens aussi. Tu vois bien comment c'est. Enfin, Florent, je vois bien comment il fait. Moi, c'est un peu pareil. C'est une école aussi qui vient de gens qu'on a vu comme peut-être Alain Souchon, tout ça.
On s'est dit que c'était possible.
C'est que ça passe par parler, par aller chercher le public, par d'autres moyens que par la performance vocale qu'on peut délivrer. Donc ça passe par de l'humour, par raconter des choses, par être aussi en dehors des chansons, essayer d'établir un rapport d'intimité qui passe par des discours, des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui, et puis ça, on a besoin de contrebalancer la mélancolie par des conneries racontées.
Oui, c'est un point commun entre vous deux, c'est que on va en parler après, mais j'ai appelé la partie d'après la joie de vivre, c'est que vos chansons sont quand même assez mélancoliques, les sujets sont assez graves, et quand on va à vos spectacles, les gens qui ne vous connaissent qu'à travers les disques ne s'en doutent pas, mais on se marre beaucoup. Il y a une vraie mise en scène dans le dernier spectacle, Garden Party. Toi, t'as carrément mis, il y a de quoi faire un barbecue, il y a des gens qui viennent. Toi, Alex, tu plaisantes, tu fais preuve d'autodérision, les gens s'attendent pas à ça. C'est une volonté de faire un lien différent avec le public, ou est-ce que ça renforce le contraste entre je vais vous faire venir un comique sur scène et puis après, je vais vous balancer Freddie Mercury.
C'est génial, les montagnes russes, ouais. Non? Et puis, c'est ce qui fait partie intégrante de la vie. La vie, c'est des joies et des peines constamment. Incarner des chansons sur scène, c'est la possibilité d'être un reflet assez complet de la vie, finalement. Nous, on vient avec de la mélancolie, mais pas que, aussi. Donc voilà, il se trouve que, je sais pas si on serait capable, ce serait pas beaucoup d'intérêt de faire des intermèdes sur les albums rigolos entre deux chansons.
Ouais, j'ai déjà posé la question. Non, mais ça pose la question de l'album live que moi j'ai jamais fait. Non, je crois. Mais après, c'est une espèce de politesse aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent voir, des gens qui sont pas forcément au courant parce que des fois on est dans des endroits, des théâtres où il y a des abonnés, oui, par exemple, qui viennent découvrir. Et je trouve qu'il y a une forme de politesse dans le fait de pas assommer les gens. Et puis après, il faut trouver le juste milieu. Moi, longtemps, je dosais pas bien le fait de faire des blagues et de faire des chansons, ce qui fait que ça gâchait un peu l'effet des chansons. Au bout d'un moment, je me suis dit, attention, si tu chantes des chansons tristes, il faut aussi les chanter vraiment. Et les incarner vraiment, être dans ce truc, que tu les délivres vraiment comme elles doivent être. Et pas trop gâcher l'effet des trucs avec des blagues constamment avant, après. Donc ça, c'est un petit dosage à faire. Mais il a raison, Florence, c'est ça, c'est... Bah, aller sur scène, c'est se présenter. Donc comme on n'est pas que des tristes cires ou des gens qui se baladent dans les cimetières en racontant des choses extrêmement tristes et mélancoliques, bah c'est bien que les gens le voient aussi et que... Et puis ça leur permet aussi d'avoir un truc un peu complet.
Mais faut pas oublier que les gens les plus tristes dans la vie, ce sont les humoristes.
Oui, bah oui, voilà, c'est ça.
Donc nous, on est super drôles, en fait, parce qu'on est des chanteurs mélancoliques.
Bah oui, nous, qu'est-ce qu'on rigole.
Alors justement, Laurent, toi, dans tes albums, on parle de dépression, de deuil, de violence conjugale, de psychopathologies diverses et variées. Qu'est-ce qui t'amène à ça? Est-ce que c'est une forme d'engagement artistique, ou est-ce que c'est l'observation du monde, et puis finalement, le monde qui nous entoure est moche?
Oh ben, je pense que si je rendais compte du monde exactement tel qu'il est, ce serait beaucoup plus noir, en fait. Mais oui, c'est une façon de rendre compte du monde, d'en parler, parce que moi, je suis pas un tribun, je suis pas quelqu'un qui raconte bien les histoires pendant les dîners. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de réécrire beaucoup. Donc, c'est des sujets, forcément, qui m'animent. Quand je commence à écrire une chanson sur une thématique, un sujet, ça s'impose à moi. Et c'est, encore une fois, on va à chaque fois parler de la nécessité, mais c'est ça, en fait. Donc je me vois pas écrire autre chose à ce moment-là. Et puis si c'est un sujet qui est compliqué, qui est douloureux, qui est politique, c'est pas grave. Je pense jamais au public, par exemple. Le public, vraiment, je m'en fous. Mais un point, je suis très content après de le rencontrer. Mais c'est jamais je me dis, tiens...
Il faudrait faire ça pour leur faire plaisir.
Je dis pas qu'on fait de l'art, mais entre l'artisanat et l'art, quoi, c'est vraiment un truc... l'artisan, il se dit, les gens, ils veulent une chaise avec... 4 pieds, parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, donc on va surtout pas proposer autre chose avec un 5e pied, par exemple. Nous, on peut s'autoriser à se dire, si on a 5e pied, parfois il y en a que 2, puis la chaise se casse la gueule, mais c'est pas grave.
Et toi, Alex, on retrouve un peu ça aussi, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Ça, je crois que c'est une phrase de Charlotte Brontë. Il y a Orlando, sur la tuerie, il y a les sirènes, c'est quand même une vision assez sombre du monde.
Le dernier album que j'ai écrit, j'avais l'idée qu'il fallait un peu ouvrir les chansons, pas être que dans de l'autobiographie ou des chansons sentimentales, donc je me suis dit, je vais écrire sur le monde. Puis les gens me disaient, c'est triste, et j'ai envie de dire, c'est pas moi qui suis triste, en fait. Regardez autour de vous, vous verrez, il y a raison. Sûr. Vous verrez que c'est bien plus triste, en plus, parce qu'il n'y a pas de musique derrière et tout ça.
Mais c'est pas nous qui avons commencé, en plus. Voilà.
Mais c'est marrant ce que disait Florence sur, moi j'ai beaucoup pensé à ça aussi, à ce truc entre artisanat et art, et vraiment sans être prétentieux et tout. Il y a vraiment ce truc, parce que des fois, il y a ce discours autour de, la chanson française, où c'est joli, c'est un artisanat et tout ça, machin. Et moi, je me considère pas du tout, et c'est peut-être prétentieux, mais comme un artisan, quoi. Un artisan, et c'est formidable, c'est quelqu'un qui fait très bien, mais un chef-d'œuvre, c'est ça qui font les artisans, ce qu'ils savent faire. Moi, j'ai l'impression de constamment faire des choses que je sais pas faire, en fait.
Oui, et puis l'artisan, il a une idée de départ et son intérêt et son but, c'est que ce soit entre le projet de départ et l'arrivée.
Il y arrivait parfaitement.
D'où
cette idée de chef-d'œuvre.
Nous, la chanson, elle nous emmène ailleurs à chaque fois. Moi, jamais, c'est pareil pour l'écriture de romans, entre l'envie de départ, entre le fantasme qu'on a d'une chanson et son arrivée, mais ça n'a tellement rien à voir. On est surpris.
C'est la fois génial et désespérant.
Et parfois même on est déçu. On dit, oh, je m'attendais vraiment, ça tellement mieux. Ben non.
Voilà. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis. Quand tu parles de l'écriture du roman, est-ce que ton process d'écriture quand tu as écrit ton roman et quand tu écris Freddie Mercury ou n'importe quelle autre chanson est le même? C'est-à-dire qu'au début, tu as cette nécessité d'écrire et tu te laisses porter, tu sais pas jusqu'où tu vas arriver? Ou est-ce que sur le roman, tu t'es dit, il y a quand même une autre façon de faire, il faut quand même que je prévoie un peu plus où je vais aller et tout ça?
Zéro plan,
tu t'es laissé porter par...
Non, mais de toute façon, ça va, le truc, on doit pas le rendre le lendemain. Donc on a le temps de réécrire, on a le temps de se tromper.
Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as voulu écrire un roman à ce moment-là?
Oh ben j'ai toujours voulu, c'est juste une histoire d'autorisation encore une fois, parce que pour moi il y avait les chanteurs qui étaient un truc populaire et que je pouvais faire parce que je venais de ce milieu-là, et il y avait la littérature que mes parents portaient en adoration, et pour moi c'était même rencontrer un écrivain, ça me paraissait complètement dingue en fait. Pour moi, ces gens-là étaient vraiment au-dessus de la mêlée et tout. Et c'est quand j'ai commencé à rencontrer de jeunes écrivains, notamment Arnaud Catherine, que je me suis rendu compte qu'ils avaient une fascination pour les chanteurs. Et ça m'a un peu, rassuré.
Décomplexé
beaucoup, parce que je me disais, on n'est pas complètement des bons à rien. Et puis finalement, des gens qui écrivent des romans incroyablement bien fabriqués peuvent avoir une fascination pour nos petites chansons. Enfin, le nombre d'écrivains qu'ont adoré Dominica et qui vont pouvoir vous dire, s'il n'y avait pas eu Dominica, j'aurais pas écrit de roman, par exemple. C'est quand on est chanteur, on s'attend pas forcément à ça. Donc, j'ai mis un petit peu de temps. J'ai toujours écrit des nouvelles. Je crois que c'était la peur aussi de me dire, est-ce que je pourrais tenir jusqu'au bout? Il y avait trois peurs pour l'écriture de roman. La première, c'était si jamais je vais pas jusqu'au bout et que j'ai passé 6 mois à faire que ça.
Est-ce que c'est du temps perdu?
Est-ce que c'est du temps perdu? Toujours l'histoire du temps perdu, c'est un peu absurde. Après, je me dis, si je vais jusqu'au bout, mais que je me rends compte que vraiment c'est pathétique, pareil. Et puis si je vais jusqu'au bout et que je me rends compte que ça a quand même atteint un peu son but, mais que je trouve pas d'éditeur, pareil, c'est difficile. Et puis un jour, je me suis dit, imagine, tu t'autorises à 70 balais d'écrire et tu te rends compte que c'est vraiment ton truc. T'auras perdu pour le coup beaucoup, beaucoup de temps.
Quand on vous entend, là, je trouve qu'il y a beaucoup de recul par rapport au sujet que vous abordez. On pourrait se dire, en écoutant vos albums, oh là là, c'est des gens qui souffrent de l'intérieur et de la société, et ainsi de suite. Est-ce que c'est douloureux d'écrire une chanson triste? Par exemple, Alex, quand t'écris Je te supplie, sur le deuil, dont on a déjà parlé, est-ce que c'est pareil que d'écrire sur Orlando, où il y a cette tuerie aux États-Unis qui est triste en elle-même, mais qui te touche moins?
Moi, j'ai toujours dit que j'étais très joyeux d'écrire des chansons tristes, en fait. Et en plus, je suis persuadé qu'il faut pas être, pour les écrire, dans l'état de tristesse qu'on raconte quand on le fait. Parce que mais moi,
donc
j'ai
tu
besoin...
Tu fais ça pour faire ton deuil.
Non, ça a jamais été une thérapie. On s'en fout de ça, faut aller voir des psys. Non, moi, quand j'écris une chanson, le premier truc que j'essaye, c'est de faire en sorte que ça soit une bonne chanson. C'est vraiment le premier truc. Après, que j'écrive sur des choses personnelles qui sont un peu douloureuses et tout, bien sûr. Mais quand je me mets à écrire les chansons, j'essaie de me replonger et de me souvenir de la tristesse que j'ai ressentie pour l'exprimer avec des mots. Mais je suis pas dans l'état de tristesse dans lequel je suis. Sinon, les sujets étant tellement parfois intimes et tout, j'ai l'impression que ça virerait à une espèce d'obscénité qui me mettrait mal à l'aise. Il faut que je sois un peu lucide et que j'ai un peu de recul par rapport à ce que j'écris pour pouvoir pouvoir le transfigurer par quelque chose qui soit une vision artistique, quoi, en quelque sorte. Moi, quand j'essaie d'écrire sur des choses du monde, quoi, pas sur moi, souvent c'est 2 ans ou 3 ans après. Quand j'écris une chanson comme Orlando, je sais que sur le coup, avec toute la colère, tout le dégoût, tout ce que je peux avoir je suis incapable d'écrire des choses immédiatement parce que ça serait tout d'un coup très premier degré, très voilà, et j'ai l'impression que je serais pas à la hauteur de l'événement. Moi, je suis toujours très heureux quand je finis une chanson parce que j'ai toujours l'impression que je vais jamais y arriver. On a toujours l'impression qu'on va pas arriver à écrire la prochaine, qu'à chaque fois qu'on a fini, qu'on est un peu content ou qu'on se dit bon bah tiens, ça tient debout. Moi, à chaque fois, j'ai le truc de me dire putain, encore une, mais comment,
mais ça,
quand
est-ce
que ça va s'arrêter?
C'est ça, voilà, qui est joyeux. Alors, on sait jamais quand la source va se tarir, effectivement, mais ce qui est, d'abord, on est dans une action quand on écrit, donc je sais pas s'il y a de la joie ou de la tristesse. Je pense que c'est vraiment ce que en philo ils appellent l'ataraxie, c'est pile poil au milieu, quoi. on oscille entre ces deux sentiments. D'abord parce que ça peut être douloureux parce qu'on n'y arrive pas. Parce que quand t'as passé 3 heures et puis t'as 2 phrases à la fin et en plus elles tiennent même pas debout, c'est pas bien. C'est pas très valorisant en fait. On sort de sa journée. Moi, il m'arrive de sortir d'une journée d'écriture. Je me dis mais je suis nul. Et puis le lendemain, je me remets au travail. Puis hop, je trouve une phrase, parfois un mot. Je me dis ah, ça fait plaisir. Mais on peut pas s'auto-émouvoir en fait. Mais même quand on est sur scène, on peut pas se regarder.
Enfin, c'est éviter la complaisance en fait. Ça permet ça. Je sais pas toi, mais moi je pense toujours qu'il faut porter aux gens l'émotion que contient une chanson, les sentiments qu'on a voulu donner, mais c'est pas être ému soi-même qu'il faut, en fait. Non, mais Rostropovitch, il disait ça à ses élèves. Il y a un élève qui jouait très bien, je sais pas quel truc de Bach, et qui était un truc très triste. Et Rostropovitch lui a dit, mais c'est pas toi qui dois être triste. C'est la personne qui t'écoute. Et pour ça, il faut que tu portes la tristesse. Et il y a un vrai truc là-dedans. Et de la même façon, écrire des chansons sur des événements très intimes ou très, dur, je trouve qu'il faut être dans un état de recul et dans un truc qui permet d'éviter cette complaisance-là. Moi, j'ai toujours peur de la complaisance en chanson, en fait. Surtout quand on écrit sur des choses qui nous sont, qui nous importent un peu, quoi.
Est-ce que c'est pour éviter la complaisance que les histoires d'amour de tes chansons, elles sont plutôt vachardes?
Non, mais ça, c'est parce que je suis pas un personnage très recommandable non plus. Non, mais que je trouve ça bien, parce que les chanteurs, quand même, ils ont toujours tendance à se présenter comme des gens formidables. Et moi, j'ai trompé beaucoup de gens, j'ai été menteur, j'ai été lâche et tout ça. Et j'aime bien que la chanson soit l'endroit où on raconte ça. Moi, ça me gonfle. Il y a plein de chanteurs, je vais pas dire qui, mais non, mais il y a plein de chanteurs qu'on rencontre dans la vie, qui se présentent, vous voyez ce que je veux dire, comme ah là là, des garçons sensibles et tout, on a tellement souffert et tout, puis on se rend compte qu'en fait, je préfère qu'il y ait un tout petit, même si c'est pas le truc le plus important, qu'il y ait un tout petit fond de sincérité dans la façon dont ils se présentent à travers ces chansons. En tout cas, si on fait de la chanson autobiographique. Et moi, des fois, je suis sympa, hein, quand même. Mais moi, j'aime bien
raconter
aussi.
Après moi, le déluge, on est un peu plus...
Ouais, mais c'est bien de raconter ces choses-là, de raconter qu'on n'est pas forcément des gens formidables, que c'est pas parce qu'on est chanteur qu'on est des gens sensibles et merveilleux et tout ça. Moi, j'aime bien que ça raconte ça. Sans sombrer dans un truc qui, parfois, peut me gonfler un peu. Même chez un type que j'admire infiniment comme Gainsbourg, c'est tomber dans l'ironie systématique ou dans le second degré systématique. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être un tout petit peu, voilà, de raconter des chansons d'amour, mais qui sont pas forcément dans l'idylle ou dans la perte et le deuil et tout ça, quoi.
Je voudrais revenir un instant sur la difficulté qu'on peut rencontrer en écrivant des chansons. Florent, tu disais tout à l'heure que tu passais parfois beaucoup de temps à écrire juste 2 phrases qu'au final tu trouvais nulles. Et à l'inverse, dans une interview, tu disais que Freddie Mercury t'était venu très rapidement. Est-ce qu'avec votre expérience maintenant, vous avez des techniques pour débloquer l'inspiration? Et combien de temps ça vous prend en moyenne pour écrire une chanson?
Ben moi, par exemple, sur mon premier album, une chanson qui s'appelle Le terrain de sport, j'ai mis un temps infini à l'écrire. Je me suis mis trop de pression, ça peut être ça aussi. J'ai commencé à écrire le premier couplet, le début du refrain, j'arrivais pas à aller plus loin. J'avais l'impression que c'était ce que j'avais trouvé, c'était miraculeux par rapport à mes capacités d'écriture. Donc je me disais, c'est fou, je pense que c'est ce que j'ai écrit de mieux. Je dis pas que c'est excellent, mais je dis que c'est ce que j'ai écrit de mieux jusqu'au jour, voilà, au moment où je couche les phrases. Et en me disant ça, en plus, je fais la connerie de j'avais des amis avec moi, puis je leur dis, ah, j'ai un début de chanson, et tout le monde me dit, ah, ça va être vachement bien. Et ça m'a mis une pression de dingue, et je n'arrivais pas à la terminer. J'avais l'impression que j'allais, voilà, me décevoir, les décevoir, et j'ai dû mettre 6 mois pour l'écrire. Et finalement, j'ai réussi, dès qu'on commence à se poser des questions, ça devient très douloureux. Mais après, non, je pense, il y a des chansons qui sont peut-être parfois plus difficiles à écrire parce que peut-être qu'on en attend trop, mais c'est capturer des... Je sais pas comment dire. Je pense souvent à la métaphore de la pêche à la ligne, mais c'est écrire des chansons, c'est rester au bord de l'eau, puis t'attends. Parfois, il y a des poissons, parfois, il y en a pas, et faut pas s'inquiéter plus que ça. Et parfois, c'est vraiment pas le jour, il faudrait faire autre chose. Moi, de plus en plus, je m'autorise à faire autre chose, hein, si ça vient pas. Mais avant, je restais vraiment comme un enfant à qui on demande de terminer son assiette. Tant que t'as pas fini, tu restes à ta table d'écriture, mais ça, je le fais plus. Mais ça m'est arrivé, hein, de rester 5 heures, et c'était tout ce que je sortais, c'était tellement mauvais, et plus parfois on insiste, plus c'est mauvais, hein. C'est effrayant. Parfois, de se relire le lendemain, ça peut être très déstabilisant pour ça.
Moi, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est d'écrire des musiques, parce que je suis sans doute beaucoup moins un musicien et compositeur, et voilà. Donc ça me prend du temps, et ça m'emmerde vraiment. Moi, la phase de l'écriture, ça m'emmerde. Quand je trouve des trucs, je suis content, mais vraiment, c'est très laborieux chez moi, et voilà. Et comme j'ai besoin de musique pour écrire le texte, moi, j'arrive jamais à écrire un texte à plat, voilà.
t'écoutais la musique avant de...
Toujours, systématiquement. De temps en temps, j'ai fait le contraire et je trouvais que c'était pas bien. Mais même quand j'ai écrit pour d'autres gens, j'ai écrit des chansons. Par exemple, quand j'écrivais des chansons pour Julien Clerc, qui me demandait des fois, il me filait des musiques, puis des fois, il me disait, ce serait bien que vous me filiez un texte. Généralement, j'écrivais une musique, j'écrivais le texte dessus, je virais la musique, puis je lui filais le texte. Ou j'écrivais sur une chanson déjà connue. Voilà. Une fois que j'ai la musique, je mets du temps, et ce temps-là, c'est marrant, ce truc de la pêche à la ligne, il me permet d'y réfléchir comme ça, sans y penser, tu vois ce que je veux dire. Mais à partir du moment où je me dis, je vais écrire la chanson, c'est-à-dire en écrire le texte pour qu'il y ait un truc fini, ça me prend 3 heures, en gros, pour finir quelque chose, et mis à part 2-3 trucs que je corrige généralement, voilà. Et si je trouve ça pas bien, j'assiste pas. Moi, je jette. Du genre, ça m'amuse pas. Et puis, je me dis, ça veut dire qu'il fallait pas la faire. Ou que je suis pas bon pour la faire, et donc j'en suis déjà tellement pour écrire les musiques, que je me dis que si les textes, en plus, c'est pénible. Ah non, alors là, vraiment, j'ai quand même besoin d'avoir un peu d'estime de moi. Donc moi, soit elle est finie en, ouais, 3 heures, vraiment, c'est ça, le texte, hein, une fois que j'ai fait la musique pendant 6 mois, soit je jette, moi, je jette énormément de trucs.
Tout à l'heure, vous me disiez que vous réfléchissiez pas au public. Est-ce qu'il y a quand même dans l'écriture une recherche de quelque chose d'universel, un moment où vous dites, oh là, en fait, est-ce que ça m'intéresse que moi? Par exemple, dans De Justesse, moi, je suis père et un père anxieux, j'ai l'impression que t'as écrit la chanson pour moi, je te le dis. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, il y a quand même des choses pour aller attraper le sujet qu'on doit partager avec les autres?
Tu vois, la chose la plus mystérieux sur mon dernier album, c'est parler de la chanson de Freddie Mercury. Je sortais de l'écriture de mon roman, donc j'avais ce que j'appelle le muscle de l'écriture, parce que j'y crois beaucoup à ça. Et puis j'avais commencé l'écriture des chansons, donc un format très très différent, avec la versification, tout ça. Et je voulais faire une sorte de pause. J'avais écrit, peut-être je sortais d'une période où j'avais écrit 5-6 chansons, et j'avais donc la moitié d'un album, et j'avais plus tout de suite le désir d'y retourner. Donc je me dis, je vais faire une pause, et puis j'ai commencé à écrire ce souvenir, sans savoir trop ce que j'allais en faire, en me disant, peut-être que ce sera une nouvelle, je voyais pas comment je pourrais en faire un roman, mais en tout cas, je dis, c'est juste pour moi, voilà, je vais l'écrire comme ça. Et puis j'ai eu besoin, je fais ça souvent en écriture même de romans, pour vérifier si le souffle dans l'écriture est le bon. Je me mets au piano, et je fais comme une lecture musicale, en fait, je parle le truc, mais c'est vraiment un truc à moi, je vais pour vérifier, quoi. Et puis je trouve cette musique, et avec 3 pauvres accords, mais c'est 3 accords, ça fonctionnait. Et je me dis, tiens, ça se trouve, ça pourrait être une chanson sur l'album. Mais j'ai quand même demandé, mes amis proches, je me suis dit, mais en fait, qui ça va intéresser? Je me suis vraiment posé la question et je me dis, je le fais très, très égoïstement. Je pense que ça peut intéresser personne. Et il se trouve que c'est la chanson qui a peut-être le plus marqué des gens. Donc, on ne peut pas vraiment savoir, en fait.
C'est fou, ça. T'as ce texte qui est très beau. T'as ces accords. Et toi, tu te demandes si...
Mais pour moi, c'est mon souvenir. Donc, ouais. En fait, pour le coup, effectivement, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut mettre ça sur l'album? Parce que c'est un truc personnel qui peut pas intéresser les gens. Il y a peut-être trop de détails dedans, personnels, pour que ça puisse faire écho. Et en fait,
mais non, au contraire. Non. Je suis persuadé que c'est quand on est le plus personnel dans des choses que sans s'en rendre compte, on atteint l'universel. Peut-être parce qu'il y a une nature humaine ou quelque chose profondément. Alors là, on parlerait de choses un peu ontologiques, mais qui font que les gens se retrouvent dans des choses, voilà. Sur ce truc-là, moi, je le fais pas exprès, forcément, mais quand tout d'un coup, un chanteur dans une chanson, par une phrase ou deux phrases, arrivait à exprimer un sentiment que moi, j'avais essayé de m'exprimer à moi-même sans y arriver. Tu sais, c'est le truc où on te dit, voilà, quand des gens après un concert me disent, c'est marrant parce que ce que vous avez dit là en deux phrases, c'est exactement ce que j'essaie moi de m'exprimer sans y avoir réussi. Je trouve que c'est vraiment le compliment le plus joli qu'on puisse faire.
Je l'ai vécu.
Je crois pas qu'on le fasse exprès.
Ah ben non.
Je crois que ça arrive de façon. Alors on fait pas exprès quand même. On essaie de bosser, de bien faire notre travail, hein, d'écrire, de se dire que la poésie, c'est sans doute. Moi j'aime bien cette idée que la poésie c'est la précision du langage. Voilà. C'est que tout d'un coup, vous voyez, Souchon, Ultra Moderne Solitude, quand on arrive à coller deux trucs ensemble et que ça exprime des sentiments très compliqués, mais de façon extrêmement concise. Et quand quelqu'un me dit que j'ai réussi ce truc-là, je trouve que, en tout cas, en termes de texte, c'est le truc le plus beau qu'on puisse me dire. Et je suis persuadé que plus on est personnel, souvent, moi, je me suis aussi. Mais comme Florent n'a pas posé la question, parce que c'est horrible ce qu'on dit, mais moi aussi, je m'en fous du public. Mais je pense qu'il faut s'en foutre, en plus. Parce que sinon, on fait des choses dont on pense que les gens les attendent et c'est pas intéressant. Mais c'est vraiment sur les trucs les plus personnels que j'ai écrits. Ou comme Florent, je me suis dit, à part moi et les quelques personnes qui connaissent l'histoire ou qui me connaissent, qui vont choper les références. Mais parce que même quand on a écouté des chansons, il y a pas longtemps, on l'aimait beaucoup tous les deux. Il y a un chanteur qui s'appelle Murat qui est mort. Qu'avait des chansons, certaines chansons dont on peut considérer que les textes étaient quand même assez sibyllins. Mais comme on sent qu'il y a là-dedans quelque chose de personnel et tout, on finit par se raccrocher, se raconter son histoire dessus, et c'est ça qui est beau dans ces chansons-là.
C'est nourri, c'est très incarné, donc c'est quelque chose qui transparaît. Mais par exemple, ta chanson « Je suis un souvenir », c'est une chose personnelle.
Complètement, oui. Et, c'est vraiment et c'est pour, un enchaînement
de choses personnelles. Ouais. Sur plein de trucs, de moments, on se dit, j'ai vécu forcément la même chose, mais j'ai vécu des choses similaires. Et c'est pour ça que ça touche, en fait.
Et par exemple, Alex, quand dans certaines de tes chansons, tu utilises le toi, tu genres pas la personne en face, c'est plus parce que dans ton vécu, il y a des hommes et des femmes dans ton lit, ou est-ce que c'est parce que tu te dis, si je fais ça, n'importe qui peut recevoir la chanson?
Peut-être le seul endroit où je pense au public. Moi, je me cache pas du tout de coucher avec des garçons, de coucher avec des filles, d'être avec des garçons, d'être avec des filles. Et d'ailleurs, je le dis quand je parle des chansons. Mais le seul truc sur lequel peut-être, effectivement, je pense au public, c'est que moi, j'ai toujours fait attention, pas du tout à cultiver une ambiguïté, parce que moi, voilà, là, en conversation, j'en parle.
Oui, sinon,
ça, ça fait longtemps que c'est fait. Mais il y a quand même cette idée que j'aime bien. Mais peut-être parce que j'imagine les gens qui sont de l'autre côté, qui longtemps ont eu que des chansons hétéronormées dans lesquelles on leur racontait des choses où ils pouvaient pas se... Voilà. Et puis c'est un exercice, c'est le bordel, hein, parce que quand même, il y a plein d'adjectifs où ça marche pas.
Oui, c'est ça, parce que après,
mais moi, j'essaie constamment... Textif, alors, c'est pour ça que je dis « tu » déjà, parce que ça évite d'avoir justement de genrer la personne qui est l'objet de la chanson. Et oui, il y a même des... Pff, c'est con, parce qu'il y a des mots que j'aime bien, mais il y a plein de mots dans des chansons d'amour que je me suis interdit parce que ça marchait pas. Et même quand j'écris les textes, quand je le faisais pour les livrer avant, je me rappelle que j'avais un truc où j'avais mis un E dans un adjectif et pas à l'autre, pour qu'on puisse se dire, c'est un garçon et une fille, mais il y a vraiment cette idée, voilà, c'est le seul truc peut-être sur lequel je pense au public, c'est d'essayer d'être un peu inclusif. C'est comme ça qu'on dit, je crois.
Dans vos œuvres, il y a aussi la notion d'album concept qui revient un petit peu comme si on devait raconter une histoire au-delà de l'histoire. Florent, le premier qui a accroché beaucoup de monde, c'était Rio Baril. Est-ce que tu peux le pitcher pour les gens qui ne connaissent pas?
Comme je le disais au début, c'est, enfin, moi, le starter, le moteur de l'écriture, c'est beaucoup le lieu. Et après, j'avance, chemin faisant, comme ça, sans me poser trop de questions. Il se trouve que je considère un album comme un moment de ma vie. Et tout d'un coup, le monde se divise en deux. C'est ce qui appartient à l'esthétique, en tout cas de l'album ou le lieu, et ce qui n'y appartient pas. Là, j'ai eu besoin de parler du milieu rural, du Berry, de faire l'analogie entre la vie au village et les westerns. Je trouvais qu'il y avait ce truc-là qui me plaisait bien, de parler de la maladie mentale, parce que c'était aussi dans ma vie à ce moment-là. Et puis, j'ai une fascination, comme beaucoup de gens, pour les faits divers. Donc, c'est tout ça. Mais c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on commence à... Voilà, j'ai la première chanson de l'album. Donc, l'album s'appelait Rio Baril, et donc, ça se passait dans un village imaginaire, qui était en fait un peu mon village. Et j'ai écrit la première chanson, ça s'appelait Rio Baril, où je décrivais le village, ça me permettait d'y être. Et une fois que j'étais rentré, j'y reste durablement pendant 6 mois. Où j'écris les chansons. D'ailleurs, j'ai écrit entièrement cet album à la campagne, à côté du village que je décrivais. Mais alors, je sais pas, j'ai un peu de problème avec le mot album concept, parce que c'est comme si c'était prémédité, comme si on avait un plan, mais ça s'impose. Je fais pas une collection de chansons.
Je t'ai pas dit, je vais raconter une histoire, on va là, ça se terminera avec une arme à feu, mon but c'est de raconter.
Non, mais
j'aime pas son destin.
J'adore être surpris, moi. Ouais. Mais c'est comme quand dans l'écriture de roman, je sais pas ce qui va se passer, et je me mets à ma table d'écriture, et je me dis, ah tiens, je pensais pas que mon personnage irait là. J'avais quand même l'envie d'avoir un personnage et de le suivre durablement sur 25 ans. Mais je m'interdis rien, je me dis pas, enfin je me dis, si je parviens pas, si je me suis dit, j'aimerais bien que le personnage traverse 25 ans, mais si tout d'un coup je me rends compte qu'en fait il faut 10 ans ou même moins, ce sera moins, c'est pas très grave en fait. Le trajet après qu'on effectue en écriture et tout, et c'est ce qui est le plus important, mais après c'est juste, on se donne un point de départ avec une sorte d'objectif. Cet objectif-là, on l'atteint jamais, et puis au contraire, c'est l'album, c'est le roman qui vous rattrape, qui vous dit ce qu'il faut faire en fait, c'est lui qui vous indique le chemin. Nous, on n'est pas maître à bord en fait.
Et toi, Alex, il y a les gens dans l'enveloppe.
Oui, mais ça, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est Isabelle Monin qui a écrit un bouquin et que moi, à un moment donné, je lui ai dit, ce serait formidable de rajouter des chansons là-dessus, mais...
À la base, je crois qu'elle achète une enveloppe dans laquelle il y a des photos.
Sur eBay, je crois. Dans laquelle il y a des photos de famille et elle me raconte son projet. Ces photos, elle sait pas qui sont ces gens, comme elle est à la fois journaliste et écrivain. Elle va se dire, partant de ces photos, je vais écrire un roman, une fiction où j'imagine leur vie. Et dans un deuxième temps, je vais faire une enquête. Et la deuxième partie de mon roman sera une enquête où je les retrouve et où je vois, entre la fiction et ce qui leur est vraiment arrivé, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et moi, je lui dis, c'est super, faut rajouter des chansons, mais parce que ça, c'est parce que c'est moi. Moi, j'écris que des chansons, quasiment, et un peu de musique. Et donc, comme je fais que ça, par contre, j'ai un truc assez fourbe de me dire, il faut en foutre partout.
faut en mettre dans les films, faut en mettre au théâtre, faut en mettre dans les livres. Enfin voilà. Moi je fais que ça, mais par contre j'aime bien l'idée que les chansons elles peuvent aller partout. Et très vite je lui ai dit bah vas-y viens, on fait des chansons et puis on fera chanter des vraies chanteuses ou des vraies actrices pour la fiction, puis on fera chanter les vrais gens quand il les aura retrouvés pour ce qui est de la partie enquête, investigation. Et voilà, mais là le concept il m'était déjà offert par Isabelle. Si on parle de mes albums à moi, ils ont fini par devenir conceptuels, mais parce que c'est tout le temps la même chose mes albums en fait. Peut-être qu'ils ressemblent un peu de ce point de vue-là aux albums d'un chanteur que moi j'adore qui est Étienne Dao. En gros, mes albums avec des trucs au milieu qui passent, ça raconte toujours une histoire d'amour du début à la fin. Mais tous mes albums, ça commence par l'idylle, ça finit par une chanson de rupture. Voilà. Et bon, c'est pas génial hein comme idée, mais comme on disait, on s'en fout des histoires, l'important c'est comment on les raconte. Mais je crois que si on prend tous mes albums, c'est ça, que la rupture se finisse par le deuil ou par voilà. Mais ça raconte quasiment tous, même le dernier où j'essaie un peu plus de m'ouvrir au monde, en fait, on vient tout le temps sur ces vieux trucs, quoi.
Oui, mais on peut raconter tout le temps la même chose, mais on change d'angle avec la caméra, en fait.
Ouais, c'est ça. Juste comment ça, on chaque fois. Raconte, bien sûr.
Puis il y a l'esthétique qui compte. Tout d'un coup, on a des envies aussi d'arrangement, de sons qui sont d'un album à l'autre, heureusement, différents. À part Brassens, je vois pas d'autres contre-exemples. Brassens s'est jamais laissé, il a toujours eu la même esthétique.
Oui, la même équipe. Et puis ça n'a pas sonde, voilà.
Sans qu'on puisse s'ennuyer, je sais pas comment il a fait, parce que sinon c'est vrai que ce qu'on aime, moi ce que j'aime chez les chanteurs et les chanteuses, et ce que j'aime faire aussi, c'est de jamais porter le même vêtement.
Ouais, toi tu disais que t'aimais bien David Bowie parce que tu trouvais que chaque album se répondait un peu et que ça construisait quelque chose d'esthétique. Et toi, Alex, je crois que c'est Zaroc qui disait Alex Baupin, comme à chaque fois, a renouvelé, fait un renouvellement sonore de son album. Est-ce que vous vous dites le dernier était comme ça, donc je dois aller ailleurs, ou c'est vraiment
Ouais, moi, en tout cas, je suis très attaché au fait que j'ai jamais travaillé avec le même arrangeur, enfin la même personne qui produit l'album deux fois. Autant sur scène, j'ai une vraie loyauté par rapport aux gens qui m'accompagnent et tout, et que ça fait longtemps que j'ai le même guitariste, la même violoncelliste, etc. Autant sur les albums, déjà, je les prends pas exprès parce que on se connaît trop. Je les prends plus sur des projets parallèles où j'ai eu besoin d'être un peu épaulé, quoi, des musiques de films par exemple et tout ça. Sur les albums, j'ai vraiment été attentif à tout le temps avoir des réalisateurs différents et à tout le temps leur proposer une méthode de travail différente, que ça soit on part 12 jours à ICP à Bruxelles dans un vrai studio, ou non, on va faire ça pendant un an et on se verra deux fois par jour. J'aime bien cette idée que le terrain de jeu, il soit pas le même à chaque fois. C'est jamais, évidemment, au bout du compte, le plan qu'on avait, qui était machiavélique, est jamais le bon, enfin, c'est jamais ça. Sur le dernier, je m'étais dit, on va pas du tout mettre de cordes et du coup, on va trouver autre chose. Bon, j'ai réussi à résister au fait d'avoir des arrangements de cordes parce que j'aime beaucoup ça, mais quand même, ça finit par en être d'une autre façon. Mais moi, j'aime bien cette idée. Déjà, j'aime bien l'idée de lâcher un peu la bride sur mes albums. Je suis sans doute beaucoup moins musicien que Florent et arrangeur, parce que lui, il sait faire ça vraiment. Je me présente comme chanteur, donc auteur-compositeur-chanteur, un peu paresseux. Et j'aime bien l'idée que, tenez, je vous file les chansons, puis vous les habillez vous. Bon, puis après, au bout d'un moment, je peux empêcher de dire oui ou non. Mais ouais, j'aime bien l'idée que ça soit différent à chaque fois de ce point de vue-là.
Est-ce que c'est pour pas t'ennuyer aussi ou...
Bah, c'est parce que j'aime bien être surpris, parce que comme c'est mes chansons, déjà, je les ai écrites, tout ça, voilà. J'aime bien les filer à des gens et puis voir ce qu'ils vont en faire. Ça m'énerve généralement. Voilà, puis des fois je suis surpris, je trouve ça super, mais comme chanteur en fait j'aime bien faire un peu ma diva. Je suis porteur de projets sur d'autres trucs, je suis responsable quand je fais des musiques de films, sur plein de trucs je suis vraiment responsable. Quand je décide de faire un album pour Françoise Fabian, c'est moi qui, voilà, comme chanteur j'aime bien. Par exemple, j'ai encore une maison de disques comme avec un contrat d'artiste comme on dit, parce que j'aime bien l'idée que là voilà, moi j'écris les chansons et vous les arrangeurs vont les habiller, et puis la maison de disques va s'occuper de la promo, et puis voilà. Et un truc où c'est le seul endroit où j'aime bien être un peu irresponsable. Et en vrai, on en a déjà parlé beaucoup avec Florent. En vrai, je le suis pas, parce que je peux pas m'empêcher de demander combien coûtent les choses. Enfin voilà, je suis quand même très attaché à être un peu sur le projet, sur tous les aspects du projet. Mais il y a quand même ce truc là, ouais.
C'est une condition assez confortable, effectivement. Moi, ça s'est fait un peu par hasard aussi, le fait que je sois presque au bout d'un moment obligé aussi de produire moi-même mes disques. Mais en tout cas, je pense que les albums, ils se font à chaque fois un nouvel album, ils se font en réaction au précédent.
Oui, ça c'est sûr.
Est-ce qu'on a envie de manger tous les jours la même chose? Je suis pas certain. Il y a des gens hein, qui mangent tout le temps la même chose et ça leur pose pas de problème. Brassens, il faisait de manière absolument géniale tout le temps la même chanson. Moi, j'ai besoin à chaque fois d'être excité par quelque chose que j'ai pas pu faire avant. En fait, c'est d'avoir des nouveaux jouets, en fait.
Oui, et puis des chanteurs comme nous. Alors ça vient de chanteurs qu'on a écoutés. Parler de David Bowie, évidemment, mais on a quand même ce fantasme de gens beaucoup plus grands que nous. Mais bon, je crois que un type comme Alain Bachung, par exemple. Ouais.
qu'est l'exemple de même Gainsbourg, hein, qu'aller tout le temps voir, qu'essayer en tout cas d'aller faire des choses différentes. Fatalement, c'est un truc qui nous excite parce que on n'arrivera pas forcément à être aussi aussi doué, aussi géniaux qu'eux, mais on cherche ce truc. C'est vrai, ce truc de réaction.
On parlait de Scheller. Scheller, il a passé son temps à faire ça.
Oui, entre les pianos solo, puis après il sort Albion, tout voilà. Cet album, on comprenait rien. Enfin, on comprenait rien. C'était génial, mais.
Mais moi, j'aimais cette idée-là. D'un coup, cette prise de risque, c'est fascinant.
Oui, mais parce qu'on est ennuyé, à part Brassens, t'as raison. Peut-être Charles Trenet aussi. Il y a des gens comme ça qui ont trouvé une forme et qui l'ont gardé jusqu'au bout et de façon assez géniale. Mais moi, quand les autres chanteurs ou chanteuses sortent tout le temps le même album, je peux aimer ça, mais au bout d'un moment, je m'ennuie, quoi.
Est-ce que c'est ce qui t'amène aussi des fois à faire des choses un peu farfelues, comme reprendre Ophélie Winter ou Aladdin?
Aladdin, moi, c'est une de mes chansons préférées, Prince Ali. C'est pour ça que je l'ai reprise. Moi, j'ai pas beaucoup de second degré sur les chansons. Je peux avoir très mauvais goût, ça me pose pas de problème. Et quand j'ai l'impression que je peux proposer quelque chose sur une chanson. Bon, Ophélie Winter, en l'occurrence, j'ai réécouté il y a pas longtemps, c'était vraiment raté. J'ai vraiment fait un truc, c'est abominable. Mais il y a deux, trois trucs qui m'ont amusé à faire. Une reprise d'Ouragan que j'avais faite, par exemple, que je trouvais, voilà. On peut tous chanter sur des conneries dans des soirées et puis aimer profondément des chansons dont on peut juger qu'elles sont abominables, parce que les chansons, c'est ça aussi, même quand elles sont...
C'est le statut même de la chanson,
oui,
à la différence on va prendre la littérature ou même le cinéma. Une chanson, je pense par exemple au Démon de minuit, mm-hmm. ou même chanson de Stéphanie de Monaco, qui nous ont émotionnellement porté quand on était môme, à vie. À chaque fois qu'on écoutera les premières mesures, on va revivre justement ce moment-là, on sera extrêmement ému. Alors, à la différence d'un film qu'on peut avoir adoré à 15 ans,
d'un roman,
ben en général, l'émotion, elle est plus intacte.
C'est la chanson, de la chanson.
La chanson, c'est intacte, en fait, c'est complètement fou.
Oui, parce qu'une chanson peut être très mauvaise. Et je sais que dans les trucs que j'ai repris, il y a peut-être des chansons dont même moi, je pourrais considérer, si je les écoutais aujourd'hui, je veux dire, elles sont très mauvaises. Mais l'impact émotionnel est tellement immédiat et tellement généralement lié à une période de notre vie et tout, que c'est la chance des chansons. Même si elles sont très mauvaises, eh ben, y a des chansons auxquelles on restera attaché à vie, alors qu'on n'aurait pas forcément été amené à les aimer, parce qu'elles nous ramènent à ça.
Ouais. Et on pourra pas les partager avec d'autres générations. Je prends l'exemple de ma grand-mère adorait chanter cette chanson, il me fait poète, je fais poète, elle fait ça
bien.
Extraordinaire. Et moi, je restais à la porte. J'avais pas les clés pour recevoir l'émotion de cette chanson. Je comprenais qu'il y avait une histoire derrière, peut-être qu'elle avait été amoureuse, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je restais à la porte. Je vois pas, moi, ça me fait aucun effet.
Oh, vous avez tous les deux parlé de musique de film. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'exercice? Comment vous abordez un film quand vous devez en faire la bande originale?
Moi, ce qui me plaît, c'est un truc de cinéphilie, c'est parce que j'ai regardé des films assez tôt, que j'ai beaucoup aimé ça, le cinéma, que j'ai très vite été très ému par certaines bandes originales, donc il y avait évidemment le fantasme d'approcher ça. Après, moi, j'ai mis beaucoup de temps à savoir le faire, j'ai l'impression. Les premiers trucs que j'ai fait, c'est parce que j'avais un ami qui s'appelait Christophe Honoré, qui a été assez gentil parce qu'il connaissait la musique que j'écrivais pour mes chansons, pour me proposer... son premier film.
Il a repris des chansons de ton premier album.
Alors après, il a fait les chansons d'amour, qui était une comédie musicale. Mais avant, j'avais fait un truc qui s'appelait 17 fois Cécile Cassard, où il y avait de la musique que j'avais pas fait tout seul, que j'avais fait un groupe qui s'appelait Lily Margot, parce que tout seul, à l'époque, j'en aurais été bien incapable. Alors moi, le truc des musiques de film, il y a deux trucs. J'en ai fait pas mal, mais j'ai l'impression que ça fait pas longtemps, que ça fait 5-6 ans que je sais vraiment le faire. Toujours ce truc de pas être artisan. Mais alors là, ça m'a emmerdé, par contre, parce que j'ai ramé quand même. J'ai ramé, j'ai été aidé par des gens aussi, qui étaient capables d'arranger, de faire des choses beaucoup mieux que moi. Maintenant, je sais à peu près le faire tout seul. Quand je fais une musique de film, j'essaie d'être très au service du réalisateur. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver un truc qui lui convienne à lui et qui me convienne à moi. C'est-à-dire que je suis incapable de répondre aux desiderata d'un réalisateur si je trouve que sur le film, c'est pas bon, ou si je trouve que la musique qu'on me propose de faire, elle me convient pas. Enfin, je veux dire, je la trouve mauvaise ou voilà. Après, moi, je suis un peu limité parce que je suis pas du tout un mercenaire de ça. Moi, il y a des films que j'ai refusés parce que je disais, non, ça, je sais pas faire. Il y a un type de musique de film que je peux écrire et que maintenant, je peux écrire tout seul. Donc, je suis content, j'ai bien travaillé. Mais il y a plein de trucs que je suis incapable de faire. Donc, ça reste quand même pour moi un truc... d'impulsion, d'envie et puis ça peut être très très chiant. Il y a des projets sur lesquels ça a été très pénible et puis d'autres sur lesquels ça a été miraculeux, mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait une comédie d'un garçon qui s'appelle Thierry Cliffa qui va sortir là, et je disais alors Fini Ardent, Cassovite, c'est un truc de braquage, j'y pensais à Sidney Lumet, à des trucs comme ça, même à Blake Edwards, je disais on va faire une musique de Mancini. Bon, au bout du compte, c'est une musique d'Alex Baupin, donc ça va chercher sur Mancini, mais ça finit toujours par me ressembler, ce qui est désespérant.
Moi, je sais que j'avais été très marqué sur la, ma première musique de film, qui était à moi seul, de Frédéric Videau. Et Frédéric m'avait dit cette phrase que j'ai retenue pour la suite. Tu vas voir, une musique de film, si elle fonctionne et si on la garde sur une scène, c'est pas toi qui décides, c'est pas le réalisateur, c'est pas le producteur, c'est le film. Et il y a un moment donné, si on est tous assez honnêtes, ça s'impose. Et moi, j'aimais bien cette idée-là, d'abord de travailler en équipe avec un autre créateur qui est le réalisateur, puis aussi le monteur, et de regarder cette alchimie-là, cette magie de voir une musique qui nous est aussi directement inspirée d'une image, de l'esthétique. Moi, la première fois où j'ai justement sur ce film-là, où j'ai lu un scénario, je ne sais pas comment on faisait, j'ai commencé à faire des mélodies, des maquettes. Et puis, une fois qu'ils avaient monté le film et qu'ils avaient tourné le film, ça marchait plus du tout. C'était pas du tout ça. Et
Mais oui, bien sûr. C'est génial, ça.
Et on s'est
travailler à l'image aussi. Mais bon, oui. Ça, c'est marrant. Moi, qui suis très mauvais lecteur de scénario, au début, j'avais ce fantasme aussi. Et puis, les réalisateurs ont ce fantasme bien aussi. Sûr. Parce qu'ils disent, ah, si on avait, parce que Morricone faisait ça avec Léon, alors ça va sur des trucs et tout. Ah, si on avait le thème pour le tournage, ce serait génial et tout. Moi, à chaque fois que j'écris un truc avant, je regardais les images, je faisais, ah ouais, d'accord, on n'est pas du tout dedans.
Mais sur ce premier film, j'avais même ce truc quasiment, dingue. Je demande ce qu'il faut pas forcément faire au réalisateur, s'il y a des instruments qu'il aime pas ou qu'il voit pas pour le film. Et il me dit, ah oui, alors les cuivres et le piano.
c'est un peu con pour toi, ça, quand même.
Et donc là, je me dis, je vais prendre une guitare, j'imaginais des chœurs et tout. Et j'essaye sur l'image, ça marche pas du tout. J'essaye plein de trucs, à chaque fois, je trouve que c'est nul. Et puis, je me dis, mais je sais pas pourquoi, je sens, c'est pas par esprit de contradiction, je sens qu'il faudrait du piano et des cuivres. Et là, je commence à créer des morceaux pour piano et cuivre. Et là, c'est, le réalisateur, tout de suite, Frédéric, a dit, t'as raison, c'est ça qu'il faut, en fait. Et il me dit, je pensais pas que j'aimerais un jour les cuivres, mais parce que je les ai fait de manière un peu plus funeste, c'est pas à lui d'imaginer cuivre, big band, machin, etc. Et moi, ça me fascine, comme on est encore moins maître à bord.
Mais est-ce que vous avez quand même l'impression d'être raconteur? Parce qu'on voit ces vidéos sur YouTube où le gars prenne Shining, puis mette une musique de comédie et ça change totalement l'ambiance de ce qu'on voit. Ou tu peux mettre Terminator en romance si t'as la bonne musique. Est-ce que quand même vous vous dites, je contribue à raconter?
Oui, fatalement. Alors il y a toujours ce gros cliché qui est de dire, la musique est vraiment un personnage du film. Bon, je crois pas beaucoup. Mais s'il a raison, Florence, c'est quand ça marche, on le sait tout de suite, on le voit, ça s'impose. Je sais pas si on est raconteur, je pense que, pas tous, mais on peut faire un peu peur aux réalisateurs. Parce qu'ils ont toujours cette idée qu'il va y avoir un sous-texte avec la musique, quelque chose qui va leur échapper. Le seul auteur, au sens où il perçoit des droits d'un film, à part le réalisateur scénariste, c'est le musicien. Hein. Donc là, il y a un truc où ils disent, putain, il y a un autre auteur que moi, qui en plus évolue dans un domaine où moi, j'ai pas forcément la technique pour aller... Voilà. Donc ça, généralement, ça leur fait peur, ouais. Est-ce qu'on raconte quelque chose? Moi, j'essaie quand même au maximum de raconter ce que le réalisateur aurait envie de raconter. Parfois, de le surprendre avec un truc où il dit, tiens, bah oui, je veux bien raconter ça finalement sur cette scène. Après, moi, j'ai un autre truc, je sais pas si tu le fais, mais systématiquement sur une musique de film, je me dis toujours, tiens, essayons d'enlever la musique. Et des fois, ça fonctionne, et je lui dis, mais vraiment, plus je peux en enlever, plus je lui dis, tu vois, regarde, il y a pas besoin, en fait. Et quand il y a pas besoin, toujours cette idée de la nécessité, en fait. Et moi, je suis con, parce qu'en termes de droit d'auteur, c'est une vraie connerie.
Bien sûr.
Mais plein de fois, je leur ai dit, non, mais attends, regarde, c'est super bien, hein, ça marche et tout, évidemment, c'est, les synchros, elles sont super et tout, mais enlève.
Quelle maturité tu as.
Et quand c'est mieux. Oui, mais ça, c'est une façon de les fidéliser.
Oui.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme quand t'es vendeur de fringues, tu dis, monsieur, ça vaut pas du tout, tu lui vends deux chemises derrière, généralement.
C'est vrai.
Voilà.
T'as raison. Moi, encore une fois, sur ce premier film où j'ai appris beaucoup de choses, il y avait la première scène qui se passe, une course qui dure 2 minutes dans la nature, dans la forêt, et le réalisateur m'a dit, alors là, il y aura une musique qui va durer, machin et tout, et moi, j'avais une pression dingue, j'ai essayé plein de trucs, et j'arrive à faire une musique qui, pour moi, était peut-être l'une des plus belles musiques de ce film.
Ouais.
Les trucs dont j'étais vraiment très, très content, satisfait. Et puis, on vit avec ça pendant tout le montage. Et puis, un jour, le réalisateur m'appelle et me dit « Écoute, Florent, passe studio de montage. » Là, tu te sens, tu vois ça.
Et où il va se passer? Où il va se passer un truc?
Il va se passer un truc. Il dit « On te dit rien, regarde le film. » Je m'installe. Et là, il y a cette fameuse première scène que j'attends. Et ils ont coupé la musique. Il n'y a plus de musique. Il y a juste les pas de la fille qui... Et je les regarde, mais vous avez raison. Oui, ça m'emmerde, mais vous avez raison.
Puis des fois, ils ont tort aussi. Des fois, ils font des trucs. Alors moi, ça m'est arrivé, par contre, d'assister beaucoup et de leur dire, non, franchement, là, c'est... voilà. Mais oui, c'est terrible, parce que effectivement, il y a des choses très flatteuses ou très qu'on peut mettre sur une musique de film et on l'enlève, on se rend compte qu'on n'était pas si indispensable.
Et dans ces cas-là, est-ce que t'en fais le deuil et tant pis, ou tu te dis, ah non, mais j'ai tellement travaillé, je l'aime tellement, je vais la réutiliser. Est-ce que tu réutilises des choses?
Non, quand on a sorti la BO, on a mis ce morceau qui est pas sur le film.
Bonus, voilà.
Oui, d'accord, ok. C'est une autre façon de le faire vivre aussi.
On va revenir un petit peu à la technique d'écriture. On a parlé de Souchon. Si je vous dis que dans vos textes, il y a une poésie, ça va pas vous étonner, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté de rester accessible et simple?
Oui, moi oui. Un peu trop, des fois. Je regrette de pas avoir eu la liberté de certains auteurs. On parlait de Jean-Louis Murat ou Bachung, tout ça, machin. Moi, je peux pas m'en empêcher. Il y a deux trucs. C'est que déjà, techniquement, je suis très attaché à la versification, à des choses, vraiment à une forme qui est pas du tout de la rime libre ou de la poésie, voilà. Et ça m'énerve, parce que des fois, j'aimerais bien me sortir, mais j'ai une espèce de plaisir presque un peu sadique ou peut-être un peu psychopathe. Quand c'est tout bien fait, que, ah, tout d'un coup, celle-là, elle se mélange, puis la césure, elle est là et tout. Il y a quelque chose là-dedans, mais qui participe au rythme de la chanson aussi, qui vraiment me plaît et qui, là, pour le coup, est vraiment un truc d'artisan, je crois. Il y a vraiment ce truc d'artisanat que, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Ça s'emboîte bien et tout.
Mais c'est conscient.
Ah oui, non, mais ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je sais pas si c'est conscient ou si c'est, mais ça me satisfait tellement que j'ai du mal à partir dans d'autres trucs. Et j'admire beaucoup des gens qui sont capables d'être beaucoup plus libres dans le truc et de mélanger 10 textes comme faisait Bachung, qui savait plus rien dire, mais ça veut dire un truc. Mais moi, j'y arrive pas. Ce qui m'énerve, parce que j'ai l'impression, du coup, d'être un vieux, quoi, d'être attaché à des formes vieilles, à des choses.
Ouais, mais tu vois, regarde, au lycée, on a tous eu, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Puis on doit dire, c'est une allitération
oui.
en S. Et puis moi, je me disais, mais jamais de la vie, le mec s'est dit, je vais faire une allitération en S. Mais oui, toi, des fois, quand je t'écoute.
Ah oui, bien sûr, c'est conscient, oui, c'est exprès. Enfin, je cherche des mots.
Ouais, ouais. Je t'ai quitté, mais toi, quitté.
Oui. Oui, j'ai ce plaisir de l'écriture technique, quoi. Enfin, du truc technique, d'écrire de la poésie, je sais pas, mais en tout cas, d'écrire du lyrics, du texte de chanson qui sont un peu comme ça. J'ai ce truc de vouloir être compris, je crois. Mais ça m'emmerde un peu, en vrai. Je commence à penser à mon prochain album et j'ai vraiment toujours ce fantasme de me dire, putain, à quel moment tu vas te détacher à la fois de cette forme et de ce fond qui font que tes chansons, elles sont quand même, elles sont un peu immédiates, quoi. Puis on les comprend, bon. C'est sympa, mais j'aimerais bien arriver à me détacher de ça, mais je crois que je suis un peu, c'est ce côté bon élève ou je sais pas, qui fait que j'ai envie d'être compris puis j'ai envie que ça soit bien fait. C'est nul.
Moi, je sais pas, en fait, si je peux admirer, évidemment, l'écriture de Murat. On parlait de Bachung, qui écrivait pas seul. Mais je crois que j'aime aussi l'immédiateté dans la chanson, le fait que ce soit très ajouré, très épuré. Et si je dis ça, c'est parce que je crois que je suis pas capable de faire autre chose. Et les tentatives que j'ai pu faire d'écriture un peu plus sibyllin, plus obscure, rapidement, je me suis dit, tiens, j'avais l'impression d'être un peu faiseur, d'être un peu moins honnête.
Oui, ce qui est curieux, parce qu'on pourrait se dire qu'on est faiseur parce qu'on fait des choses très, comme tu dis, très travaillées, quoi, très ciselées. Mais curieusement, peut-être qu'on peut être faiseur quand on fait quelque chose qui ne nous est pas naturel, quoi.
Oui, parce que peut-être qu'on n'est pas fait de ce bois-là, en fait.
Moi, ça me frustre. Je me disais, j'aurais bien aimé être le Rimbaud des poésies et celui de la saison en enfer
oui,
en même temps, quoi. Mais non.
T'es le pommier qui aimerait faire des poires.
Ah, oui, c'est ça, exactement.
Mais non.
Mais ça me frustre quand même. C'est frustrant, des choses qu'on sait pas. On l'a pas longtemps, on a fait un truc, un hommage à Scheller. Florent, il a un truc, c'est que c'est un musicien, quoi. Il joue du piano, c'est même pas la peine. Et moi, vraiment, je suis déplorable musicien. Enfin, voilà. Heureusement, il était là. Il y avait une chanson que je devais faire, qui était, Fier et fou de vous. Faut quand même vraiment jouer au piano derrière pour que ça fonctionne. Je le regardais. Ça me frustre. Et en même temps, je suis tellement feignasse. Je suis incapable de me mettre, comme lui, il a dû beaucoup bosser, de me mettre 10 heures par jour derrière un piano pour y arriver. Je me dis, oh, j'ai quand même d'autres choses à foutre. Donc, à la fois, ça me frustre et à la fois, ça me renvoie à ma paresse et à ma fainéantise. Donc, on va arrêter de parler de ça, en fait. Ça m'énerve.
Et est-ce que vous dites, par exemple, quand vous écrivez une chanson pour quelqu'un d'autre, parce que il y a des formes libres dans vos chansons, mais est-ce que vous dites, quand j'écris pour un autre, il faut intro, couplet, refrain, couplet, pont, une forme de structure qui va pas trop interroger en face? Est-ce que c'est nécessaire pour que le public comprenne la forme?
Moi, quand j'écris pour les autres, je crois que je suis surtout attaché à comment dire, tout va pas à tout le monde, quoi. Enfin, par exemple, moi, j'ai peut-être le type pour qui j'ai le plus écrit de chansons, à un moment donné, c'est Julien Clerc. Julien Clerc, c'est un formidable chanteur, mais il peut pas tout chanter. Et toi, t'as écrit, par exemple, pour Lavillier.
J'ai très fait ça, moi, en réalité. Moi, j'y arrive pas.
On a très peu fait ça.
Ça marche pas.
Alors, alors déjà, peut-être que je l'ai pas beaucoup fait parce que ça fonctionne pas, effectivement. Je me retrouve dans une espèce de truc d'imitation. En fait, j'ai toujours le fantasme quand j'écris pour quelqu'un, par exemple, comme Julien Clerc, de me dire,
je vais être Étienne Brodagil. Et...
Bah oui, bien sûr, évidemment, parce que c'est ça qui est rigolo, parce que c'est, par exemple, Julien Clerc, il a commencé par une chanson qui s'appelait Ce n'est rien. Moi, dans l'album où j'avais une chanson qui s'appelait Tout, je trouvais ça rigolo.
Oui.
Parce que je me disais, tiens, on va aller à l'inverse, et puis ça va quand même faire un truc. Mais peut-être que comme Florent, c'est un exercice qui m'est un peu, difficile. Mais parce que c'est se remettre dans la position un peu de faiseur ou de mercenaire, en fait. Tout d'un coup, on nous dit, faut écrire une chanson, et tu as, ce temps-là pour l'écrire, et c'est cette personne-là qui va la chanter. Et tout d'un coup, on se retrouve dans un exercice, comme par ailleurs, on fait de la musique de film ou d'autres projets, où là, on a des impératifs et tout. les chansons, quand on les écrit, c'est le seul endroit où on est un peu, où on écrit quand on veut, quoi. Enfin, voilà, on est un peu libre.
Puis on fait de la couture, on fait de la couture sur notre propre corps, en fait. Donc, on fait des habits pour nous. Donc, on connaît les défauts de nos corps et, on sort des habits. Et là, tout d'un coup, c'est un corps un peu étranger. C'est-à-dire que c'est pour une voix.
Tu écris des belles chansons quand même pour les autres. Tu dis que tu y arrives pas, mais ça fonctionnait.
Mais dans les thématiques, souvent, je me rends compte que enfin, en tout cas, ce qui me dérange dans le fait parfois d'écrire pour d'autres, c'est que je pense différemment et ça me gêne. Je pense d'abord à l'interprète et
Oui, c'est ce que tu disais quand tu disais penser au public, penser à l'interprète et tout ça. Tout à coup, il y a un truc, on a l'impression d'être faiseur. En fait, c'est ça. Il y a un vrai truc de mercenaire et de mercenaires qui parfois sont admirables et sont des gens qu'on se talent là. Mais il y a un vrai truc mercenaire dans le fait d'aller écrire pour d'autres. Et puis moi, ça m'énerve aussi. Mais alors ça, c'est sans doute de la prétention. Mais quand j'écris pour quelqu'un puis qu'il me dit, ah, maintenant, ça faudrait changer parce que machin, tout ça, je vais lui dire, tu la veux, celle-là. Et puis, et puis j'ai obligé d'expliquer. Bah non, mais si c'est écrit comme ça parce que là, ça vient avec ça et tout. Ah oui, mais je le sens pas du tout. Je m'en fous. La chanson, elle est faite comme ça. Tu me fais chier à vouloir changer des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est affreux parce que normalement, on doit être au service. Mais alors là, moi, sur les chansons, j'ai beaucoup de mal, quoi. Sur la musique, on peut me dire des trucs, mais sur les textes, vraiment, ça me gonfle.
Moi, j'ai ce même problème sur les textes parce que je pense qu'on passe aussi beaucoup de temps pour se dire à un moment donné.
N'importe comment, voilà, quoi. Tu vois, c'est... Bon, après, c'est pas toujours vrai, l'exercice d'écrire des chansons. Quand ça a été pour le livre avec Isabelle, là, pour Les gens dans l'enveloppe, ou pour, par exemple, des comédies musicales, pour des films avec Christophe, ou tout ça, machin, là, ça peut m'amuser, parce que on doit écrire une chanson qui correspond à une histoire, qui correspond à des acteurs qu'on connaît ou pas, à leur voix et tout. Et là,
on est plus dans le jeu, en fait. Ça marche aussi, ouais.
Mais pour quelqu'un, ouais, pour un album, pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, moi, soit on m'en a retoqué pas mal, soit quand j'en envoyais une et qu'on me disait, ah bah non, faudrait écrire autre chose, je disais, bon, non, ça me gonfle.
Ah, c'est intéressant la différence de ressenti que t'as entre écrire pour un chanteur et écrire pour un acteur. On a l'impression que pour l'acteur, c'est plus facile, c'est un peu comme un instrument que tu vas utiliser pour
jouer. Parce qu'il y a une petite gageure, parce que les acteurs étant pas forcément chanteurs, on va chercher techniquement des choses pour, par exemple, moi j'écris, il y avait un film avec Christophe Honoré, il y avait Catherine Deneuve dedans. Catherine Deneuve, on connaît sa voix un peu chantée puisqu'elle avait fait quelques chansons. On connaît sa voix parlée, qui a ce truc d'avoir un dépit très rapide et tout ça. Je me disais, tiens, c'est amusant techniquement de lui écrire, par exemple, un texte où il y a des phrases assez longue mais ramassée sur un temps assez court, parce que comme ça on va retrouver le charme de sa voix parlée qu'on n'a pas toujours forcément entendu quand elle chantait des chansons. Ça m'amuse parce qu'il y a un truc technique. Et puis les acteurs vont rarement vous dire aussi, ils sont tellement contents de chanter, ils sont toujours tellement contents, les acteurs, de faire des trucs qu'ils font pas d'habitude. Et après de s'entendre, ça les flatte. Alors bon, après les chanteurs, je pense que c'est ceux qui aiment le plus être flattés. mais ils sont tellement contents de ça que généralement ils font pas chier, en fait. Voilà.
Oui, puis t'es au service d'un film.
Oui.
Alors que sinon t'es au service d'une vie.
Voilà.
C'est beaucoup plus de pression.
Toi, oui.
Alex, j'ai l'impression que t'as fait un peu l'acteur quand je t'ai vu sur scène pour Serge Gainsbourg. Parce que donc t'as repris Love on the Beat.
Ouais. Une bonne idée.
Il y a Love on the Beat avec une orchestration incroyable, des cordes pour le coup beaucoup. Et puis il y a donc ce texte qui est extrêmement cru, en même temps qui est très ciselé. C'est
très écrit, ouais.
Octosyllabique.
Bah, Love on the Beat, c'est des octosyllabiques, c'est Apollinaire, quoi, quand même.
Et en fait, le Alex Baupin que j'ai vu sur scène, c'était pas tout à fait le même que j'ai eu d'habitude, parce que celui-là, il était un peu plus rentre dedans. Je sais pas si t'as voulu rejoindre l'univers de Gainsbourg.
Bah, il y avait l'idée que c'était compliqué de faire des blagues au milieu de ce truc-là, parce que on est obligé de se présenter comme un médium. On se présente plus comme chanteur qui interprète ses propres chansons et qui, du coup, va amener sa personnalité, on l'amène dans la façon dont on a arrangé avec des gens et tout, et dont on interprète le texte. Mais là, je me vivais vraiment comme quelqu'un à travers qui passe la poésie de cet album, que j'ai toujours trouvé assez sublime et que plein de gens, et je comprends pourquoi, trouvent que c'est fin de carrière Gainsbourg et que c'est très mauvais. J'avais cette espèce de mission, un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais j'avais cette idée qu'il fallait que ça passe à travers moi, qu'il fallait que je sois assez sobre, un peu méchant même, un peu radical dans la façon de se présenter sur scène. Bon, après, ça a été filmé pour la télévision, j'ai revu, des fois je me dis c'est génial, puis moi j'ai vraiment l'air d'un con, quoi. Enfin, ça te va pas du tout, mais ça c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Mais
t'es un passeur dans ce moment-là, de transmission.
J'étais là pour transmettre. Et même la façon dont je l'ai interprété sur le disque ou sur scène, j'essayais d'être le plus sobre possible dans, c'est très talk over, c'est beaucoup de parler chanter, tout ça, machin. Mais même ça, je me disais, il faut dire le texte, qu'il soit hyper en avant. Il faut pas en rajouter, quoi. Donc, mais oui, et du coup, c'est fatalement un peu un travail d'acteur, mais pas un travail d'acteur qui va imiter Gainsbourg.
Non.
Un travail d'acteur qui va essayer de faire un truc genre, regardez, comme je suis le mec qui fait passer le truc, et comme j'ai une stature, et comment je me tiens, et puis bon, après, c'est moi, quoi, quand même.
C'est bien.
Hélas.
Vous avez aussi, évoqué une sorte de pas énorme amour dans l'idée d'aller écrire pour les autres.
Dans les cons, dans les cons.
Je lisais l'autre jour le témoignage d'une scénariste qui voulait écrire des chansons et qui a fait un stage dans je ne sais quelle école de formation à l'écriture. Et elle est tombée sur un producteur de musique qui lui a dit « Mais l'époque des paroliers est révolue. Maintenant, il faut être un artiste complet si on veut. » Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Par rapport à une période qui était les années 80-90, j'ai l'impression que les interprètes purs, ça existe moins, en tout cas proportionnellement, je veux dire, de façon tout à fait statistique. Oui, et puis en plus, l'autre truc, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup pour qui j'aurais envie d'écrire, moi, personnellement. J'aurais vraiment envie d'écrire. Après, elle a fait un stage pour écrire des chansons.
Ouais.
Ça, je trouve ça terrifiant. C'est vraiment un truc, on m'a déjà proposé de faire. Alors, quand il s'agit, comme là, dans un podcast, de raconter notre expérience personnelle, et ça n'engage que nous et tout... Mais ah ouais, je trouve ça très très étrange. Pardon, c'est toujours un truc.
Le côté mécanique, oui, de ce qu'on pourrait transmettre.
Tu voudrais pas être formateur dans des trucs pour écrire des chansons? Je dis, qu'est-ce que tu veux que je leur raconte comment on écrit une chanson? Enfin, c'est quand même bizarre, ce truc. C'est terrifiant, je trouve.
On peut pas apprendre à écrire des chansons.
On fait des trucs très mauvais, ce que racontait Florent. On fait nos classes, quoi.
Ouais.
En écrivant des choses, en imitant tout le monde et tout ça. Mais aller, c'est peut-être comme écrire pour les autres, en fait. C'est un truc que je pige pas, en fait. C'est tellement instinctif. C'est quelque chose qui doit être tellement, tu vois ce que je veux dire? C'est du travail, mais c'est aussi un truc que, bon, pardon, c'était pas du tout la question. Oui, il y a plus de ACI, comme on dit, d'auteurs, compositeurs, interprètes aujourd'hui.
C'est motivé aussi par des raisons économiques, je pense.
Bien sûr, évidemment.
On l'a dit passé, mais
c'est le moyen de gagner de l'argent.
Ça multiplie les sources de revenus, bien évidemment. Mais alors, je sais pas si c'est bien ou pas. Moi, il y a des interprètes purs que j'admire énormément. Pas tant que ça quand j'y réfléchis. non, mais c'est vrai, mais quelques-uns, quoi. Mais
en fait, je pense que en plus le public s'en fout complètement, c'est ça qui
est pas
fabuleux. Personne ne sait, tout le monde est persuadé que Serge Reggiani écrit ses chansons.
Absolument. Non, mais t'as raison. En plus, ça, c'est un truc qui concerne vraiment le métier,
oui.
Mais qui concerne pas les gens qui écoutent, la majorité des gens qui écoutent des chansons, ils s'en foutent.
Pour arriver vers la fin, c'est quoi les derniers textes, dernières chansons qui vous a vraiment bluffé, vous avez dit, j'aurais aimé écrire ça, ou c'est vraiment hyper bien écrit?
Dans la simplicité, j'ai trouvé que la chanson L'Espoir de Raphaël avait une sorte de d'épure et qu'elle racontait quelque chose de l'exil que j'ai trouvé très beau et très simple. Au début, j'ai trouvé ça trop simple et après, je me suis dit, mais c'est fou d'arriver à dire des choses fortes avec autant de simplicité, que ce soit pas simpliste. Et j'aime encore plus une chanson quand on pourrait passer à côté parce qu'elle me semble peut-être un peu trop simpliste et que sans la réécoutant, parce que les chansons compliquées où il faut plusieurs écoutes pour rentrer dedans, etc. Comme disait Bachung, on y entre d'abord pour la musique et puis après pour le texte. Mais je suis encore plus fasciné quand ça me paraît trop simple. Par exemple, on parlait de Scheller, mais la première fois que j'ai écouté, j'étais adolescent, pourtant un homme heureux, c'était de sortir. Quand on est ado, hein, on a un énorme melon, puis on a l'impression d'être un beau.
Hein. Lié, cette histoire de
c'est
heureux.
Un peu facile quand même.
Je vois ce que tu veux dire.
Et après, on se rend compte que finalement...
C'est difficile la simplicité, c'est difficile très, très à bien. Atteindre pour que ça fonctionne, effectivement. Qu'est-ce que j'aime bien? Moi, j'aime personne, en fait, c'est horrible. Si je suis allé à... Je connaissais pas forcément très bien, mais je suis allé à Bercy voir ce garçon qui s'appelle L'Homme Pâle, là. Et je suis pas super musique urbaine et tout ça, enfin j'en écoute pas beaucoup, c'est pas ma génération, c'est pas ce que j'ai écouté et tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait, dans pas mal de textes, dans certains trucs, quelque chose qui curieusement me parlait, ouais. Où je retrouvais justement un truc, bon, j'établis toujours des parallèles à la con, mais j'avais l'impression que Orelsan c'était Renaud. Pour nous, dans les années 80, je veux dire, ce truc très populaire, très simple, en même temps bien écrit, en même temps avec de l'humour, avec un truc, tu vois, avec ce truc aussi de qui il est comme personnage, d'où il vient, de quand,
du mec qui
sait
pas chanter,
du mec qui traîne, du mec qui voilà, et que L'Homme Pâle ça pourrait à un moment donné être une espèce de Bachung, parce qu'il a une façon d'écrire des textes qui sont pas si simples,
avec beaucoup d'inattendu dans les mots, le choix des mots,
avec un truc, avec une façon de se présenter en plus, enfin il y avait un truc chez lui que je trouvais qui m'a un peu bluffé. Je me suis dit, putain, lui il arrive à faire un truc
mais c'est de la pop.
Ah bah bien sûr, oui, ces rappeurs là ils finissent par être des chanteurs en réalité, hein. Bah d'ailleurs t'as vu, il est entouré d'une équipe
super gros,
Pierre Devin, tout ça machin, c'est que des mecs qui font de la chanson en fait en réalité. Et d'ailleurs sur scène il y a plus de machines, enfin je veux dire ils jouent les trucs avec des vrais instruments, ils sont être Eddie Mitchell ce que je veux dire, techno et tout, ça m'a épaté, ouais.
Et pour finir, si demain l'un de nos auditeurs veut commencer à écrire des chansons, quel est le conseil que vous lui donneriez ?
Ne le fais pas.
Je trouve que quelqu'un qui se pose la question s'il doit devenir chanteur et s'il doit écrire, moi en général je me dis faut pas le faire. Faut pas le faire si tu te poses la question. C'est quelque chose qui s'impose en fait à soi et...
Mais qu'est-ce que toi t'aurais aimé savoir et que tu as appris avec le temps quand t'as débuté ?
Je sais pas, j'ai j'ai l'impression d'être constamment en train de courir après la chanson suivante et puis essayer de m'améliorer en fait, mais qu'est-ce que j'aurais aimé savoir?
Moi peut-être, parce que moi j'ai commencé tard et je me le suis avoué tard, le seul truc que je pourrais dire c'est de pas perdre de temps en fait, parce qu'il faut faire les choses et faut, enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire, si plus tôt, si à 17 ans je m'étais dit allez il faut vraiment s'y mettre, faut écrire des chansons, c'est ça qu'il faut faire et tout, peut-être que j'aurais fait plus de choses encore, que j'aurais commencé plus tôt et que j'en sais rien, puis peut-être que de toute façon c'était comme ça et que c'est très bien que ça soit passé de cette façon là non, puis c'est de travailler, enfin c'est de travailler, c'est con, ça fait un peu, mais moi j'avais été très impressionné quand je me suis mis à vouloir écrire des chansons, Aude était encore vivante et tout, et j'étais ami avec Christophe Honoré, qui est une des premières personnes à qui j'ai avoué au bout d'un moment que c'est ce que je voulais faire. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est, bah, puisque t'es chanteur, faut faire un concert. C'est complètement con, j'ai pas de maison de disque, j'ai pas de tourneur, j'ai personne et tout. Il m'a dit, non, mais tu vas faire un concert chez toi. Donc, j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, mais je fais un concert devant quatre amis chez moi, puis il m'a dit, puis maintenant, faut écrire des chansons. Et en fait, c'est bien de dire à des gens que vous êtes chanteur parce que vous écrivez des chansons. Après, c'est validé par le fait d'avoir une maison de disque et tout ça. Mais moi, j'avais cette idée que j'étais un peu vélitaire parce que je me disais oui ben bon, comme il y a pas de maison de disque, comme j'ai pas de tourneur, comme j'ai pas d'endroit pour faire des concerts, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on est écrivain parce qu'on écrit, on n'est pas écrivain parce qu'on est publié, et on est chanteur parce qu'on écrit des chansons, donc c'est ça, c'est il faut travailler.
Donc il faut travailler, ça me paraît un bon conseil pour conclure cet épisode. Merci Alex, merci Florent.
Merci beaucoup.
Ben non, merci les amis.
C'est ainsi que se termine cet épisode de La Machine à écrire. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nos invités, que l'on remercie à nouveau pour leur temps et leur générosité.
Si vous ne les connaissez pas encore, on vous invite à découvrir tous les albums de nos invités sur les plateformes de streaming ou chez votre disquaire. On vous met les liens dans la description de l'épisode.
Vous pourrez retrouver Florent Marché et d'autres artistes le samedi 25 mai 2024 pour l'hommage qui sera rendu à Jean-Louis Murat à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand.
Vous pourrez également retrouver Alex Baupin sur scène avec Alex Vizorek au Francofolie de La Rochelle le 10 juillet 2024. On vous met le lien pour en savoir plus dans la description.
Nous tenons une nouvelle fois à remercier la Société Nationale de Bande Dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blin qui nous hébergent pour l'enregistrement du podcast.
Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire et vous émouvoir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi.
Chaque vendredi, donc, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants, sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter dans la description de cet épisode.
Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter.
Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer le podcast, le mieux, c'est de parler de La Machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous faire connaître.
Vous pouvez également nous laisser plein d'étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements, c'est très utile pour nous.
Pour finir, nous vous remercions de votre fidélité et de vos messages qui nous font toujours plaisir et on vous dit à bientôt.